Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour 2 heures d'actualité. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h et en direct. À la une ce soir, second tour en vue pour les élections municipales. Ce sera le dimanche 28 juin, comme l'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe à la mi-journée. Mais dans quelles conditions alors, précisément? Mode d'emploi dans un instant dans votre journal, Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, un témoignage ce soir sur Europe 1, celui de Françoise, 57 ans, soignante, cadre de santé à l'hôpital. Mais surtout, le 7 avril dernier, elle a contracté le Covid et depuis, eh bien, elle se bat non-stop contre le virus. Elle a choisi Europe 1 ce soir pour raconter son histoire et son calvaire. Témoignage très fort à ne pas manquer dans 20 minutes en direct. 18h30, vos grandes voix, ici même pour décrypter toute l'actualité du jour dans ses moindres détails et bien sûr ce rendez-vous du 28 juin pour les municipales. Et puis à 19h30, comme chaque vendredi, vous le savez, votre grand journal du soir se met en mode week-end et vous emmène en balade déconfinée. Attention, hein, à moins de 100 km de chez vous, bien sûr. Alors on ira du côté de Nantes et puis les bons conseils culture, de la rédac, musique, cinéma, gastro, un peu de tout. Et vous, bien sûr, au 3921, hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir s'élance jusqu'à 20h. On est ensemble en direct.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain.
Ce sera donc le 28 juin, comme on s'y attendait. Le gouvernement fixe le second tour de ces élections municipales au dernier dimanche du mois prochain, scrutin sous haute surveillance sanitaire, qui pourrait d'ailleurs être reporté au cas où la situation de l'épidémie de coronavirus se dégrade.
La plupart des élus approuvent cette décision. Nous écouterons la réaction de François Rebsamen, maire de Dijon.
Renault ne doit pas fermer. Flin mise au point très net de Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1, alors que le constructeur français prépare un vaste plan d'économie. Pourtant, sur place, on n'est pas vraiment rassuré.
On s'attend à ce que la réponse soit pas bonne. Même si on nous dit que l'usine ne doit pas fermer, comme disait mon collègue, s'il n'y a plus personne dedans, c'est voué forcément à fermer.
Dans ce journal également, la situation sanitaire catastrophique au Brésil, alors que le président Bolsonaro semble toujours nier l'ampleur de l'épidémie.
Et la Bourse de Paris qui finit la semaine à l'équilibre, moins 0,02% à 4 444 points.
Bonsoir Anissa, on lève la tête, on regarde le ciel avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, ça va se dégrader demain avec le passage d'une perturbation assez active sur l'ensemble du pays. Nous aurons pas mal de pluie et des températures en baisse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
16 millions d'électeurs appelés aux urnes le 28 juin prochain. C'est fait, c'est dit, c'est donc la date retenue par le gouvernement pour organiser le second tour de ces élections municipales.
Oui, cela concerne environ 5000 villes en France, hein, en tout, notamment Lille, Paris, Lyon ou encore Marseille. Attention, prévient le Premier ministre, cette date est réversible. Ce sera en fonction de la situation sanitaire du pays.
Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Comme nous l'avions déjà fait pour le premier tour, le ministre de l'Intérieur va engager dès la semaine prochaine la concertation avec les maires de France pour organiser en toute sûreté les opérations électorales proprement dites, en suivant précisément les recommandations du Conseil scientifique. Comme toutes les décisions prises dans le cadre du déconfinement, celle de tenir le second tour des élections le 28 juin prochain est réversible.
Édouard Philippe à la mi-journée depuis l'hôtel Matignon.
Alors un deuxième tour d'élection municipale le 28 juin, mais il s'agira d'un scrutin très encadré, on vient de l'entendre, sur le plan sanitaire, n'est-ce pas Adrien Becht?
Oui, alors si vous avez voté au premier tour, vous vous en souvenez peut-être, des marquages au sol pour bien matérialiser la distance physique, des électeurs invités à venir avec leur propre stylo, à garder leur pièce d'identité à la main. On reprend donc les mêmes consignes pour ce second tour, avec une différence de taille annoncée par Christophe Castaner, le masque obligatoire.
Chaque électeur devra porter un masque de protection, qui pourra être un masque grand public. Ils devront également pouvoir disposer de gel hydroalcoolique ou d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains. Les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical tout au long de l'opération de vote, tout comme les scrutateurs au moment du dépouillement.
Pour les personnes fragiles, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à aller le plus loin possible pour permettre le vote par procuration. Il a en revanche balayé l'idée d'un vote par correspondance. Mais avant le vote, il y aura aussi la campagne, une campagne certes plus longue, mais qui sera à minima. Il faudra privilégier l'usage d'Internet, demande le gouvernement, qui n'exclut pas, par exemple, de permettre aux candidats d'envoyer des professions de foi qui seraient un peu rallongées.
Alors voilà, pour le programme, on développera tout ça avec Mickaël Darmon dans Les Grandes Voix à 18h30. La plupart des associations d'élus s'étaient montrées favorables à l'organisation de ce second tour au mois de juin. Exemple, François Rebsamen, le maire de Dijon, il était sur Europe 1 à la mi-journée.
Effectivement, il avait lancé un appel avec d'autres maires de grandes villes pour organiser ce scrutin le plus tôt possible. Il a donc obtenu satisfaction.
Il faut trouver le moyen de sortir de cette séquence électorale dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Mais il faut en sortir parce que on ne peut pas rester comme ça, l'arme au pied, alors que le pays va avoir besoin d'une relance économique. Cette relance, on le sait, 70% de l'investissement public vient des collectivités locales et notamment du bloc communal. Donc il est absolument important que nous puissions participer de cette relance parce que sinon, l'économie va en prendre un coup. Ça serait une année blanche carrément pour nous. Si ça n'avait pas pu avoir lieu, si ces élections n'avaient pas lieu fin juin, évidemment, ça repoussait, on ne sait pas quand d'ailleurs. À partir de là, on imagine mal quand même pouvoir prendre des décisions lourdes en termes d'investissement sans avoir une validation démocratique.
François Rebsamen, ce midi, avec Raphaël Duchemin. Alors, il y a encore quelques maires ou élus qui se disent très clairement opposés à l'organisation de ce scrutin en juin prochain. On prend le risque de répéter la faute du premier tour, estime par exemple le député France Insoumise, Éric Coquerel. Et puis, devant une épidémie qui semble être en recul, il y a aujourd'hui cette polémique qui enfle autour, vous savez, de la question des parcs et jardins. On en parle ce soir avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonsoir, Jimmy.
Bonsoir, Lionel. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, on a tous vu ces citadins qui s'agglutinent autour des grilles, des espaces verts totalement engrillagés. La question qui se pose, Jimmy, c'est faut-il rouvrir ces parcs et, le cas échéant, y imposer le port du masque ?
Alors c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'il fallait un déconfinement progressif, ça a été le cas, et ne pas réouvrir tout de suite les parcs pour ne pas envoyer un mauvais signal, le virus semblait encore à nos portes. Néanmoins, on a peut-être un petit peu de recul, pour l'instant les choses semblent s'améliorer. Deux arguments en la faveur d'ouverture des parcs. Le premier, c'est le docteur Drosten, qui est le virologue allemand, qui avait co-découvert le SRAS en 2003, dit que attraper le coronavirus ou un virus respiratoire dans l'espace public est quasiment nul. Donc à l'air libre, il n'y aurait pas de risque. Et deuxième élément, c'est que tous les clusters, tous les foyers que nous avons ne sont survenus que dans des lieux clos, là où la distanciation physique n'est pas possible. Et en ce qui concerne le port du masque, pourquoi en porter un dans un parc et pas en marchant tout simplement? Je suis un peu perplexe. Par contre, si effectivement on a des réunions avec 10-15 personnes autour, là peut-être qu'il faudrait porter un masque. Mais je pense qu'il y a plus de risques d'être dans des appartements confinés que dans des espaces extérieurs, surtout en cette période de l'année où on a envie de profiter un petit peu.
Évidemment, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve tous les jours à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez sur Europe 1.
J'ajoute cette information, Nathalie, le prix des masques à usage unique et des gels hydroalcooliques est plafonné jusqu'au 10 juillet prochain. 95 centimes l'unité pour les masques, 80 centimes en prix de gros. Les 100 millilitres de gel sont fixés à 2,64 euros, précision donc officielle aujourd'hui.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, la situation chez Renault au Flin ne doit pas fermer, disait ce matin sur Europe 1 Bruno Le Maire. On revient avec Emmanuel Dutheil sur cette annonce.
Et puis à l'étranger, la situation dramatique au Brésil. Le président Bolsonaro continue de nier la gravité de l'épidémie alors que les cas se comptent par centaines de milliers dans le pays.
Europe 1.
18h08 sur Europe 1, la suite du journal avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est la situation chez Renault, avec cette mise en garde ce matin. C'était sur Europe 1 de Bruno Le Maire. Le site de Flins ne doit pas fermer.
Après les rumeurs de fermeture d'usine et alors que le constructeur français doit annoncer un plan d'économie de 2 milliards d'euros le 29 mai prochain, ce qu'il faut comprendre dans les propos du ministre Emmanuel Dutheil, c'est que le gouvernement justement pose des limites très claires à la restructuration du constructeur français.
Que Renault reconvertisse Flins, ça nous va, mais pas question de fermer cette usine. Voilà ce que l'on dit dans l'entourage de Bruno Le Maire. Renault met actuellement la toute dernière main au plan d'économie qu'il doit présenter vendredi prochain. Et de sources internes, on le reconnaît, il est bien possible que l'on ne fabrique plus dans les années à venir des voitures à Flins. Avec les propos très fermes tenus ce matin sur Europe 1 par Bruno Le Maire, le gouvernement met donc une barrière très claire. Oui, à la fermeture de petits sites à l'avenir plus incertain, on parle par exemple des fonderies de Bretagne, mais il faut un vrai projet de reconversion pour une usine comme Flins.
Sauf que, Emmanuel, ce plan d'économie sera difficile pour Renault.
Oui, hein, ce que prépare Renault, c'est un vrai plan global. Aujourd'hui, les usines sont largement surdimensionnées. Il faut donc rationaliser. Il faut rationaliser partout où c'est possible dans le groupe. Personne ne sera épargné. Renault prépare un gros plan de départs volontaires et de départs anticipés. Il faut aussi relancer concrètement l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Là aussi, des projets vont être présentés en milieu de semaine prochaine. Il faut encore accélérer sur l'électrique, les technologies de demain. Certains modèles qui ne correspondent plus aux attentes des clients devraient être arrêtés comme l'espace. Et le gouvernement est clair, si Renault veut obtenir son prêt de 5 milliards d'euros, il faut être ambitieux. Ça passera aussi sûrement par des relocalisations et l'obligation de développer en France tous les projets d'avenir. Sans compter que Bercy prévient le groupe, il faut aussi participer au plan batterie, un plan jusque-là snobé par Renault. C'est rare, mais cette fois, on a de vrais moyens de pression, dit-on à Bercy, où on prévient, sans cette aide, la pérennité de Renault est en jeu.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Alors, on a entendu la mise au point du ministre de l'économie hein, sur le site de Flin, mais justement sur place, eh bien, ces déclarations ne rassurent pas vraiment Jean-Claude Thévin, le délégué CGT.
Énervé aussi, en colère et dans l'attente, parce que pour l'instant, aux travailleurs, eux, ils nous demandent ce qui se passe, mais on n'a pas de réponse. Donc c'est compliqué. Puis on s'attend à ce que la réponse soit pas bonne. Même si on nous dit que l'usine ne va pas fermer, comme disait mon collègue, s'il n'y a plus personne dedans, c'est voué forcément à fermer. Il y en a qui disent, bon, une usine comme ça, ça peut pas fermer, c'est pas possible, c'est trop gros. Sauf qu'on a eu des exemples, hein, Aulnay, Peugeot, donc voilà. C'est depuis le mois de décembre qu'ils nous mènent en bateau. On peut pas vous dire. Jusqu'à ce qu'ils nous disent, on fera plus de véhicules. Bon, on peut pas faire confiance à des gens pareils.
Propos recueillis par Élise Dangean à Flin. J'ajoute qu'après 15 jours de fermeture, l'usine Renault de Sandouville a repris sa production la nuit dernière. Le site avait été fermé sur décision de justice, hein, vous le savez, pour cause de mesures sanitaires jugées insuffisantes. Les quelques 1800 salariés de l'usine reprennent donc le travail après la mise en œuvre d'un protocole de sécurité sanitaire avec respect des distances de sécurité, masques de protection et gel hydroalcoolique à portée de main.
L'actualité à l'étranger, Lionel, l'une des situations les plus dramatiques s'agissant du Covid-19 se trouve sans doute au Brésil.
Oui, le nombre des victimes du coronavirus a explosé ces derniers jours au Brésil avec plus de 20 000 morts. Dans le même temps, le président Jair Bolsonaro continue à nier la gravité du virus. Et parmi la population, Marina Dacher, on ne semble pas vraiment avoir conscience du danger de l'épidémie.
Oui, plus de la moitié des Brésiliens ne respectent pas le confinement, pourtant imposé par certains gouverneurs dans plusieurs États. Il faut dire que le président Jair Bolsonaro continue à encourager la reprise du travail et ses partisans le suivent. Il continue, lui, à sortir le masque baissé sur le menton, méprisant toutes les règles de prévention de l'OMS. Il n'y a aucune politique de santé publique coordonnée au Brésil face à l'explosion des cas. On a déjà deux ministres de la Santé qui se sont succédés depuis le début de la pandémie et aujourd'hui, c'est un militaire sans expérience dans le domaine qui occupe le poste. Une politique très inquiétante alors que l'épidémie est hors de contrôle. Le nombre de morts a doublé en 11 jours seulement. Les tests manquent, le système de santé publique est proche de la saturation. Et à São Paulo, les jours fériés ont été regroupés, une semaine entière de fériés jusqu'à mardi prochain. Une mesure qui semble parfaitement inefficace.
Marina Oudacher, correspondante d'Europe 1 au Brésil.
Une quarantaine, en fait, de 14 jours hein, pour les voyeurs arrivant sur le sol britannique.
Ouais, la mesure a été annoncée aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il s'agit bien sûr de renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus, mesure qui s'appliquera également aux citoyens britanniques qui devront rester confinés à leur domicile durant la période. Et puis au moins 40 morts parmi les 91 passagers et 7 membres d'équipage de l'avion de la Pakistan Airlines qui s'est écrasé ce matin sur un quartier résidentiel de Karachi, la capitale. L'appareil assurait une liaison intérieure, on n'en sait pas plus pour l'instant sur les causes de ce crash.
Et on va conclure avec la disparition d'un géant de la musique africaine.
Vous avez reconnu Morikante,
évidemment cette voix d'or
dont on entend le célèbre tube Yeke Yeke, est décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Ce tube était sorti en 1987, il avait été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, contribuant bien sûr à la popularisation de la musique africaine et notamment de la musique guinéenne.
Évidemment, il recevait en 2017 le Grand Prix des musiques du monde. Merci beaucoup Lionel Gougelot, à tout à l'heure, hein, 18h30 au rendez-vous avec de nouvelles infos. Anissa. Du côté du temps, je vous entends danser. Du côté du temps, ça va donner quoi ?
Alors j'espère que je ne vous ai pas fait la danse de la pluie, hein, parce que demain c'est très agité. De la Gironde aux Ardennes, le ciel est couvert demain avec pas mal de pluie. À l'avant de cette perturbation qui va traverser le pays demain, de l'Occitanie jusqu'aux Alpes, les nuages seront nombreux, ils seront épais, avec même sur l'Auvergne et le Jura quelques coups de tonnerre. Sur le quart sud-est, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, une fois n'est pas coutume, le temps reste sec, le ciel est dégagé, il va faire beau demain dans le sud, profitez-en. Dans l'après-midi, demain la perturbation va s'avancer vers le sud-est. Sur la moitié nord du pays, le ciel va enfin retrouver le soleil et le ciel se dégage. Et puis sur le quart nord-ouest, attention, le vent souffle. Tout comme sur le golfe du Lion, hein, où le Mistral et la Tramontane vont se renforcer demain pour un vent atteindre les 70 km/h. Alors les températures, vous allez le constater, elles vont baisser effectivement avec ces nombreux nuages. 9 à 14 degrés demain matin jusqu'à 17 dans le sud. Et dans l'après-midi, la baisse va se faire bien sentir avec 16 à 22 sur l'ensemble du pays, 17 à Lorient, 19 à Biarritz, 20 à Lille et Strasbourg, 22 pour Paris, 24 à Chambéry. Dans le sud, il fait toujours aussi chaud, 28 à Gap, 30 à Montpellier et 31 pour Avignon. Un mot rapide, parce que je sais que ça vous intéresse le vendredi, c'est de savoir à quoi va ressembler votre week-end. Alors vous l'avez constaté, demain c'est pas terrible, dimanche c'est le retour du soleil pour toute la France et lundi il va faire très beau.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et votre invité dans un instant.
Et un témoignage fort ce soir sur Europe 1 qui va vous parler assurément, celui de Françoise, 57 ans, soignante, cadre de santé à l'hôpital. Le 7 avril dernier, elle a contracté le Covid-19 et depuis, eh bien, elle se bat jour après jour contre la maladie. Elle a choisi ce soir Europe 1 pour nous raconter son histoire. Ça se passe dans un instant, en direct.
Il est 18h20 sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy avec un témoignage ce soir sur Europe 1. Vous recevez Françoise, soignante, cadre de santé à l'hôpital. Elle a contracté début avril le coronavirus et se bat depuis pour guérir. Elle a choisi Europe 1 ce soir pour raconter son histoire.
Bonsoir Françoise, bonsoir madame, bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir et merci de me donner la parole.
Alors effectivement, vous êtes cadre de santé et vous êtes malade depuis le 7 avril, atteinte du Covid-19. On est donc, si je fais bien les comptes, à J45, J+45. Vous souffrez encore aujourd'hui. Que ressentez-vous comme symptômes ?
Alors, le symptôme qui continue là de m'ennuyer tous les jours, donc c'est une congestion nasale avec donc une sécheresse nasale et une sinusite bilatérale. Donc tous ces signes sont apparus au décours de la maladie et ne me lâchent pas.
D'accord. Comment donc c'est apparu, disparu, revenu, parce que depuis 45 jours, est-ce que vous avez eu un temps d'accalmie ?
Oui, un petit peu. Et pour ne rien vous cacher, j'ai eu notamment une accalmie par exemple hier. Donc donc hier j'allais bien et puis ce matin de nouveau au réveil, j'ai de nouveau ce symptôme qui persiste et donc j'arrive pas à me débarrasser.
Comment vous êtes soignée du coup pour cette sinusite ?
Eh ben justement rien du tout. C'est ça qui est le plus difficile avec ce virus, c'est que tout est déconseillé, donc je ne peux pas. Les lavages de nez dès le début, hein, donc j'ai été suivie par la plateforme Covidom. Donc bien sûr, j'ai bien parlé de ces troubles, de ce rhume que j'avais, de cette congestion. Donc on m'a dit oh là là, alors surtout pas de lavage de nez, d'accord. Pas d'instillation à base de corticoïdes, pas d'inhalation, pas de fumigation comme on pourrait le faire d'habitude quand on a un rhume. Donc tout ça est largement proscrit par les médecins. Pas d'anti-inflammatoire, un peu de doliprane, mais c'est vrai que sur une sinusite, c'est pas le traitement qui est le plus efficace.
Est-ce que vous avez pu consulter ? Vous avez toujours fonctionné par vidéo parce que on entend évidemment toutes sortes de choses. Vous avez été testée aussi, j'imagine ?
Alors, j'ai été testée donc le 8 avril, hein, donc test positif. Et ensuite, devant la teneur de ce symptôme, j'ai alerté un peu mon médecin. Et donc, j'ai été retestée le 6 mai. Et donc, le 6 mai, il y avait donc une persistance encore donc du virus dans le test PCR. Et j'ai fait aussi donc un scanner des sinus qui montait, qui est un canier en évidence, qui a bien montré eu donc une sinusite bilatérale et puis donc une hypertrophie des cornées. Enfin, là, on est dans les vraies choses.
Mais alors, donc, toujours positive, plus d'un mois après. C'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que le résultat a montré. Et qu'est-ce que vous dit à ce moment-là le médecin, le soignant qui est en face de vous?
Et ben donc il me dit qu'il faut attendre encore. Donc je suis toujours donc en arrêt de travail. Je vais refaire donc là un test vraisemblablement lundi, puisque les symptômes ont quand même des fois tendance à disparaître. Mais le problème c'est que quand ça revient, ça, en plus psychologiquement c'est
très
compliqué
lourd,
parce
on
qu'on a l'impression qu'on est débarrassé et puis non. Donc j'ai fait donc une sérologie avec donc des anticorps qui sont en train de monter mais lentement. Donc ça, c'est plutôt positif, mais donc il faut donc attendre que...
Et donc, vous ne savez pas
attendre.
Non plus...
Le mot d'ordre, c'est attendre.
Oui, alors Françoise, vous ne savez pas non plus si vous êtes contagieuse ou pas, j'imagine.
Alors, dans le doute, abstiens-toi, donc je pense que je suis potentiellement contagieuse, oui, tout à fait. Donc je reste confinée, masquée, tout à fait.
Donc, les médecins vous le demandent ou c'est votre propre décision par précaution?
C'est ma décision, mais les médecins
vous
le
recommandent.
Aussi, hein. Donc
vous n'avez pas vu vos proches depuis le 7 avril, 45 jours, ça commence à faire long. Évidemment, sur le plan psychologique, vous accusez le coup, j'imagine?
Un petit peu, oui. C'est vrai qu'il y a des petits moments où on se dit, mais c'est quand que ça va s'arrêter? Et puis, genre, justement, quand je me sens un peu mieux, je me dis, ah ben tiens, c'est super là. Ça va, je respire normalement, j'ai plus mal à la tête, et puis après, donc, voilà, le lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu comme une sorte de rechute.
On ne sait pas trop pourquoi, mais les spécialistes à qui vous en avez parlé, les professionnels de santé, ils ont l'air de savoir un peu plus, ou on voit que, de toute évidence, il y a encore beaucoup de questions sans réponse?
Eh bien, je pense que c'est beaucoup de questions sans réponse, C'est vraiment...
Donc vous n'avez pas pu retravailler, pas pu revoir votre famille depuis 45 jours. En lisant la presse ce matin, est-ce que vous avez été en quelque sorte rassurée de ne pas vous savoir seule? On voit qu'environ 5% des patients Covid sont dans votre cas.
Alors oui, c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai. Ben, je me sens moins seule, mais voilà, donc j'aimerais quand même voir j'aimerais bien que ça s'arrête. Et puis, vu qu'on est quelques-uns dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura aussi une recherche à ce sujet-là, voir un petit peu pourquoi on serait résistant qu'on résisterait un petit peu, le virus résisterait plus longtemps.
Alors effectivement, il y a peut-être des recherches qui peuvent, certains spécialistes effectivement plaident pour des recherches plus approfondies. Vous craignez, vous, que ce soit chronique?
Par moment, oui, tout à fait, oui. C'est un petit peu ce qui m'inquiète des fois. Et puis après, bon, je me dis, bon non, ça va, mon corps lutte, les anticorps vont faire leur travail, le virus met du temps à partir, je ne suis pas toute seule, donc ça va bien. J'aurai peut-être, j'espère, un test négatif qui sera quand même rassurant en partie. Et puis si les anticorps aussi... poursuivent leur travail, remontent. Je me raccroche
À tout ça, évidemment. Vous avez peut-être lu aussi que ces résurgences concernent le plus souvent des femmes, la quarantaine, souffrant d'immenses fatigues, de douleurs musculaires. Vous qui êtes cadre de santé, est-ce que vous vous êtes expliqué ce lien ou est-ce que vous avez réussi à vous le faire expliquer?
Alors, pas vraiment. Moi, j'avoue que donc la fête, enfin, au niveau musculaire, enfin, j'ai pas de soucis. La fatigue reste. Hein, il m'arrive encore de faire des siestes, mais une fatigue, c'est vrai que oui, une fatigue un peu chronique, mais donc, mais après.
Et le lien avec les femmes, les quadras. Alors, vous êtes un tout petit peu, pardonnez-moi au-dessus, mais ce lien avec les femmes, personne ne vous en a rien dit. On n'arrive pas à
rien du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Non, rien. Non.
Françoise, du coup, vous travaillez pas, vous êtes en télétravail, vous imaginez reprendre à l'issue du prochain test s'il est négatif?
Alors, si le prochain test est négatif, oui, bien sûr, j'espère reprendre. Le télétravail, moi, c'est vrai que ça fait donc cette semaine-là que je suis, enfin, ou même plus, à 45 jours, donc je travaille plus, donc c'est difficile là, de se remettre au télétravail comme ça, sans avoir revu les équipes. Donc, bon, pour l'instant, je vous cache pas que j'espère avoir une bonne nouvelle mardi, surtout, et puis voir.
Ce sera le troisième test.
Jusqu'à quand? Tout à fait, oui, troisième test,
Troisième test, donc J45, encore ces mots donc dont vous souffrez, Françoise. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre parcours en quelque sorte du combattant avec cette maladie qui persiste. Merci beaucoup.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, votre rappel des titres, Lionel Gougelot. Et puis on décortique l'actu du jour avec les grandes voix. Une date, celle du second tour des municipales. Ça y est, c'est calé, 28 juin. Et puis la survie de Renault, c'est sur Europe 1 dans moins de 2 minutes.
Europe 1.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
On va se retrouver dans un instant avec le rappel des titres de Lionel Gougelot. Les grandes voix s'installent dans ce studio. Il y a du boulot ce soir. Hein. Mickaël Darmon, prenez place parce que dans une seconde, c'est vous qui allez nous parler de ce second tour des municipales le 28 juin. Ça y est, la date est fixée. Mais alors attention, attention, hein, restons prudents. Réversible, a dit Édouard Philippe dans un instant. Le programme, évidemment, c'est avec vous aussi, Ève Roger. Dans une seconde, on parlera du bilan du déconfinement la semaine prochaine. Mais d'abord, c'est avec vous, Lionel Gougelot. Un rappel des titres complets.
Retour aux urnes le 28 juin prochain pour le second tour des élections municipales. Date réversible effectivement en fonction de la situation sanitaire du pays. L'élection pourrait être à nouveau décalée si l'épidémie de coronavirus connaît un rebond. Il faudra venir masquer au bureau de vote et émarger sur les listes électorales avec son stylo personnel. Renault ne doit pas fermer Flins. Mise en garde sur Europe 1 ce matin de Bruno Le Maire alors que le constructeur français prépare un plan d'économie de 2 milliards d'euros. Le ministre de l'économie qui prévient, il y aura des faillites et des licenciements dans les mois qui viennent en France. Téléphoner au volant pourra désormais vous coûter une rétention de permis de conduire si en même temps vous commettez une autre infraction comme un excès de vitesse, un franchissement de ligne continue ou un refus de priorité aux piétons. Le préfet pourra ensuite décider d'une suspension allant jusqu'à un an, annonce faite aujourd'hui par la sécurité routière.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, on se retrouve à 19h pour un journal complet. Anissa, on est comment
oui,
côté Nathalie. Temps
On est sur une journée beaucoup moins agréable. Hein. Demain, on va pas terminer la semaine en beauté parce que c'est une perturbation qui traverse le pays. Avec elle, des nuages épais et de la pluie. Alors d'abord, demain matin, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand Est. Et puis au fil des heures, cette perturbation va s'avancer vers le sud pour toucher l'Occitanie, le Massif central et les Alpes. Avec même des coups de tonnerre sur l'Auvergne et le Jura. Le vent souffle aussi sur le Nord-Ouest et sur le pourtour du littoral méditerranéen. Donc prudence. Ça va souffler fort demain après-midi. Les températures sont en baisse, mais je vous rassure, ça s'arrange dimanche et toute la semaine prochaine.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix pour décortiquer l'actualité de ce vendredi. Vos grandes voix sont là autour de vous. Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique et Emmanuel Dutheil, chef du service Économie d'Europe 1.
Bonsoir à vous les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir,
bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Merci d'être à mes côtés en ce vendredi, avec un vendredi chargé, surtout sur le plan politique. On y vient tout de suite avec vous, Mickaël Darmon, à qui je donne la parole, parce que on a une date, ça y est, le 28 juin pour le second tour des municipales. On y est arrivé? Est-ce que c'est la bonne solution? On verra à ce moment-là, mais en tout cas, c'est acté.
Oui, c'est acté et c'est réversible. Donc on a compris qu'évidemment, c'est en fonction de la situation sanitaire que l'on dit chaque jour s'améliorant. Eve va certainement nous le confirmer, mais en tout cas, c'est la tendance. Donc, à partir de là, eh bien, on va un peu reprendre quand même la politique. C'est-à-dire que ce deuxième tour des élections municipales, il va quand même aussi, au-delà des péripéties qu'on a connues, il va aussi offrir une nouvelle carte politique. Parce que figurez-vous, quand on regarde un petit peu les enjeux, eh bien, les trois grandes villes de France sont en passe d'être prises par des coalitions gauche-verte. Que ça soit Paris, Lyon et Marseille. Et donc, on a effectivement une nouvelle configuration qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est l'enjeu de ce second tour, avec un séisme qui serait que Lyon, peut-être, éventuellement, on verra bien, pourrait être dirigé par donc des écologistes, ce qui, pour la première ville macroniste de France, représentera quand même un coup symbolique. Paris, on a compris que, évidemment, la coalition menée par Hidalgo pourrait effectivement, donc une fois de plus, continuer sur un autre mandat. Et puis Marseille, où la gauche est actuellement bien placée et qui pourrait aussi offrir une nouvelle configuration politique. Ce qui serait un signal quand même très particulier, qui montrerait que la poussée des Verts que l'on a vue aux européennes, où en général ce scrutin on le considère comme étanche, eh bien cette fois-ci se confirmerait, permettrait peut-être aux Verts de se structurer en force de gouvernement, ce qui là aussi est une mutation très importante et ferait prendre conscience au grand public que quelque part le macronisme est en train d'être peut-être réduit aux acquis. En tout cas, sur le plan territorial, c'est difficile pour la majorité de pouvoir installer le macronisme d'en bas.
Alors, élection municipale, second tour 28 juin, et puis après remaniement, vous me le dites dans un petit instant.
Peut-être.
Comme il dit. Non, mais je vous jure. Ève Roger, alors évidemment, c'est municipal, avec toujours cette notion de réversible si, en fonction de la situation sanitaire du pays. Et un premier bilan, justement, la semaine prochaine. Ça tombe bien.
Bah oui, puisqu'on nous a donné cette date du 2 juin.
Bah oui.
On nous a dit, attention, 2 juin, il y a une nouvelle étape. Donc la nouvelle étape, ça va se passer comment? Comme la dernière fois, vous savez, on nous avait montré des cartes le 7 mai pour le 11 mai.
Exactement.
Et bien là, ça va être à peu près pareil. On va être autour du 28-29 mai, avec des nouvelles cartes qui seront figées au 2 juin.
Alors.
Et donc la question, c'est évidemment qui va rester en rouge, qui va rester en vert. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer. Mmh. Par exemple, aux écoles, on n'en pense jamais, mais que quid des élèves
qui n'ont pas pu reprendre,
3e,
ouais, hein, même des CE1, CE2.
C'est ça, et le bac de français.
Exactement.
Alors c'est là, on va avoir la réponse sur le bac de français.
Et puis les parcs et jardins.
Ah bah voilà, j'allais y arriver, je l'avais noté, je me suis dit, ça va vous faire plaisir. Il va y avoir aussi les restaurants et les bars. Et on a entendu ce matin, enfin on aurait pu l'entendre sur notre antenne, que peut-être que dans les zones rouges, c'est pas sûr. Et qu'est-ce qui restera en rouge? Ça, on se doute quand même qu'il peut y avoir Paris, le Val d'Oise, l'Île-de-France. Ouais. Mais c'est vrai que les restaurants et les bars, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a dans le domaine de la culture, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer. Vous voyez, les cinémas, ça commence quand même. On a
entendu déjà la date de juillet.
Début juillet.
Mais effectivement, ça.
Mais c'est vrai qu'il y a des. J'avais pas du tout pensé à ça. J'en ai parlé avec une de mon équipe qui s'occupe de musique. Les salles de concert, c'est une tannée pour eux. Hein, parce qu'on peut pas mettre. On peut pas aller dans un concert de rock. Restant à deux places les uns des autres.
Bien sûr.
Il faut payer les artistes sur scène. Enfin bon, bref, il y a ceux qui vont sans doute perdre à ce petit jeu des couleurs, ce sera plutôt ces salles de concert et puis les théâtres aussi.
Bien sûr, c'est
très compliqué.
Alors,
il y a un truc qui va vous faire plaisir.
Ah,
on aura peut-être un élargissement des regroupements, vous voyez.
Ah,
là, on est à 10 à l'extérieur. Ouais. Peut-être avec un peu de chance, on pourra passer un peu plus.
Bon, alors moi, je vous avoue, ça ne changera pas grand-chose à ma vie, mais c'est pas grave.
Non, mais on pourra aller dans les parcs, il y a plusieurs.
Voilà. Exactement. Emmanuel Dutheil, du côté de chez Renault, on se pose beaucoup de questions. On a entendu Bruno Le Maire ce matin chez Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Ce plan d'économie sera difficile pour Renault, mais on y tient à l'usine de Flins. Hein.
Oui, effectivement, il y avait deux messages dans ce qu'est venu dire ce matin Bruno Le Maire sur l'antenne d'Europe 1. Le premier message, c'est l'avenir de Renault est tout simplement en jeu. Alors, on l'avait dit ici plusieurs fois, mais c'est encore plus fort quand ça sort directement de la bouche du ministre. Donc, si cet avenir est en jeu, il faut trouver le moyen de faire un énorme plan d'économie chez Renault. On comprend bien que les petits sites dont on avait parlé, dont par exemple les fonderies de Bretagne, vont pouvoir fermer. Mais en revanche, effectivement, sur Flins, pas question de fermer l'usine. Mais on a tous entendu ce qu'on avait dit ensemble, il y a déjà quelques jours. C'est-à-dire l'usine de Flins va être reconvertie. Il est fort probable que cette usine ne fabriquera malgré tout plus de voitures. Il faut voir que la déclaration de Bruno Le Maire, c'est une déclaration très politique. Qu'est-ce qu'il est venu faire ce matin? C'est-à-dire que Renault est en train de mettre la toute dernière main à son plan d'économie. Et donc, il est venu fixer les barrières. Attention à ce que vous allez faire. Et également, du côté de Bercy, on estime que peut-être que pour la première fois, on a un moyen réel de pression sur une entreprise française. Parce que qu'est-ce que veut obtenir Bercy? C'est des contreparties à cet énorme plan de réduction, notamment de postes. Et quelles sont les contreparties? Eh bien, Bercy veut absolument que Renault, qui jusque-là l'avait complètement snobé en la matière, participe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan, ce qu'on appelle le plan batterie, c'est-à-dire pour que la France soit autonome sur ses batteries. Et là, très clairement, on entend que Renault serait prié d'entrer dans ce plan s'il veut avoir le fameux plan de 5 milliards d'euros de prêts garantis. C'est toujours pas signé, hein. Et donc là, très clairement, Bruno Le Maire, vous l'avez entendu ce matin sur Europe 1, dit « je pourrais ne pas le signer ». Et à ce moment-là, c'est l'avenir de Renault qui est en jeu.
Ouais, ça s'appelle un peu du chantage, non? Enfin, c'est ce que d'aucuns disent.
Non, ça s'appelle pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
C'est une entreprise dans laquelle on est actionnaire. Je relais une de l'opposition notamment, je vous demandais.
Oui, mais là, il faut pas oublier qu'on critique souvent l'État français quand il est actionnaire d'une entreprise où, grosso modo, il apprend les nouvelles après la presse. Là, pour une fois, ils sont acteurs, ils jouent leur rôle d'actionnaire dans cette entreprise en fixant les règles. Et puis, ils sont d'autant plus légitimes que ce coup-ci, c'est quand même eux qui vont payer, et nous avec eux.
Bon,
c'est-à-dire que s'il y a un prêt de 5 milliards d'euros, faut pas oublier que ce prêt, il va falloir le rembourser un jour.
Merci. Alors, on va y retourner, évidemment. Enfin, plutôt, on va aller sur d'autres sujets avec vous. Les grandes voix, jusqu'à 19h, c'est sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et oui, les grandes voix avec Ève Roger, avec qui je vais commencer cette fois, parce que bien sûr on parle des municipales et de l'après avec vous, Mickaël Darmon, dans une seconde, mais les Français s'interrogent beaucoup sur cette hypothétique deuxième vague.
Oui, c'est vrai que...
Y aura-t-il ou pas ?
On n'arrête pas de dire attendons, attendons, mais c'est vrai qu'on est là aujourd'hui, on est à presque 10 jours, 12 jours du déconfinement. Mmh. Et c'est vrai qu'on a mené une enquête un peu à Europe 1, les indicateurs sont plutôt tous au vert. C'est-à-dire il y a assez peu de cas, il y a 45 clusters, nous dit Santé publique France, mais c'est pas beaucoup et en plus c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on arrive à remonter les chaînes de transmission. SOS Médecins, c'est 10 fois moins qu'au pic de l'épidémie. Les admissions en réanimation, ça ne cesse de baisser. Aujourd'hui, vous voyez, on est autour de 1700. Donc c'est vrai que on a l'impression quand même que le virus n'est pas très actif. Alors il y a deux hypothèses. Soit c'est trop tôt. Donc ça on le saura dès le début de la semaine prochaine, au milieu de semaine prochaine. Soit alors, effectivement, le virus est en train de finir son parcours, de finir sa petite vie.
Mais alors, dans ce cas, comment vous expliquez, là, typiquement, qu'au Brésil, aujourd'hui, ce soit vraiment une situation très critique? Ça veut dire que, de toute façon, il se déplace, ça, on le savait.
Voilà, et puis c'est par vague.
C'est par vague,
la Chine est passée.
Voilà, donc, tout simplement.
Je ne sais pas si c'est cette hypothèse-là, parce que la première hypothèse est possible, et qu'on sera tous reconfinés la semaine prochaine. Mais la deuxième, effectivement, il y a cette petite musique qui dit le virus a fini sa course et fini son parcours, et ce qui fait qu'effectivement, il y a cette deuxième vague, elle paraît assez hypothétique. Et c'est vrai que au début c'était plutôt les iconoclastes qui le disaient, maintenant on se rend compte que des urgentistes
de plus en plus, Patrick Pelloux entre autres, voilà, typiquement, lui il y croit pas,
Et voilà, c'est ça, mais est-ce que c'est une histoire de croyance?
Voilà, alors
vous êtes un scientifique, vous, maintenant
je suis pas scientifique, je tente modestement d'être un observateur et d'écouter ce qu'on entend et ce qui est dit à l'instant même. Au fond, ça fait maintenant 2 mois que l'on est installé dans l'ère du doute absolu sur tout. Voilà, sur tout. Et comment voulez-vous après asseoir un nouveau projet politique, faire embarquer les Français dans quelque chose qui pourrait être une cohérence et une forme de d'espérance, quand on sait ce qu'on vient d'entendre sur le virus, quand on sait qu'à la rentrée on se retrouve avec des emplois sociaux en cascade, on en a encore parlé, quand on ne sait pas exactement s'il y a une deuxième vague, pas une deuxième vague. Donc c'est vraiment toute la difficulté de l'époque
et de l'exécutif, évidemment. Et Emmanuel Macron, il va falloir à un moment se pencher sur l'avenir, donc là post 28 juin,
attention de pas trop se pencher,
exactement,
mais l'idée c'est qu'effectivement il va falloir aussi trouver un nouveau projet,
exactement, un nouveau projet avec de nouveaux hommes, avec de nouvelles personnalités autour de lui. On parle beaucoup de Bruno Le Maire pour remplacer Édouard Philippe.
On parle beaucoup de Bruno Le Maire. Alors vous savez, Bruno Le Maire, il a parlé lui ce matin. Voilà, un peu à la place de tout le monde. Il a au fond dit ce qu'il dit aussi en privé. D'abord, il considère personnellement que au fond le poste de Premier ministre n'a plus une grande valeur aujourd'hui dans un quinquennat qui met le président en pole position et qu'il peut pas y avoir, notamment en temps de crise, deux chefs.
C'est ce qui est dit. Une petite adresse à Édouard Philippe,
Édouard Philippe, ou simplement une analyse logique de tout ce qui est dit depuis que le quinquennat est arrivé.
De lecture.
Souvenez-vous, François Fillon avait dit que ça ne sert plus à rien, Premier ministre. Donc, globalement, on est sur cette analyse-là. Deuxièmement, il a aussi dit à l'antenne qu'il souhaitait la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et que lui voulait continuer à son poste, a-t-il dit.
Enfin, vous en connaissez qui ont dit qu'ils voulaient prendre le poste du Premier ministre.
Je n'ai pas dit que ce qu'il dit est vrai. Je vous dis que ce qu'il dit actuellement, c'est qu'il fait montre, justement, d'une forme de persuasion du fait qu'il est très bien là où il est. Alors peut-être qu'il joue un double jeu, ça on verra bien. Et puis après tout, quand un président vient Premier ministre, peut-être qu'on refuse pas. J'en sais rien. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut entendre aussi une forme de sincérité. Oui. Du fait qu'il se trouve dans un poste à levier, comme il a dit, comme on l'a entendu de la part d'Emmanuel, qui peut-être le satisfait plus que d'aller à Matignon.
Bon, alors Emmanuel Duteil, justement, parce qu'on vous entend presque trépigner, oui, vous pouvez intervenir aussi là-dessus. Bruno Le Maire, qui nous parle aussi des répercussions économiques de la crise sanitaire, ça, évidemment, on va y venir, et puis de son avenir. Alors, allez-y, dites-nous, vous.
Oui, mais c'est très intéressant ce que dit Mickaël, parce qu'effectivement, on croit ou on ne croit pas Bruno Le Maire, mais je peux vous dire qu'avant même la crise du Covid, il avait théorisé le fait qu'il fallait rester absolument 5 ans à Bercy, puisque notamment, selon lui, nos problèmes économiques viennent du fait qu'on a changé de premier ministre, on a changé de ministre des Finances et de l'Économie à longueur de temps, et que donc on n'a pas eu de ligne directrice. Et que pour avoir une politique, il prend, vous allez croire que je suis complètement arc-bouté sur mon histoire des batteries, mais il prend cet exemple des batteries, si on reste pas là longtemps à ce poste-là, c'est impossible de mettre en place une politique commune pour générer un projet d'avenir. Donc, moi, je suis bien évidemment pas dans le secret des dieux de la politique, mais ce dont je suis totalement certain, c'est qu'il est très heureux à son poste et que pendant cette crise, alors pardonnez-moi peut-être l'expression que je vais utiliser parce que je pense qu'on s'en serait bien passé, mais il prend un certain plaisir à diriger la partie économique de la France, et avec une forme de transparence, parce que autre chose qu'il a pu dire ce matin sur l'antenne d'Europe 1, et je sais pas si beaucoup de ministres de l'économie auraient pu le dire avant, c'est-à-dire que quand il dit qu'on s'attend à des plans de licenciement massifs. Dans l'économie française, c'est dur à entendre. Alors c'est la réalité, parce que des pans entiers de l'économie sont en train de vaciller, des pans entiers. Donc c'est la réalité, et lui comme ministre de l'économie, son job, ça va être de tenter de limiter ses plans, et surtout, ce qu'on va devoir inventer aujourd'hui, et qui n'existe pas, c'est comment mieux accompagner ses plans, parce que là on peut pas mettre tout le monde au chômage, parce que il faut former les gens 10 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, faut leur trouver des métiers d'avenir, et c'est facile de dire... Il faut, parce que la plupart de toutes ces formations, elles n'existent pas, elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas prévues dans les territoires qui vont être concernés.
Bien sûr. Alors on va revenir à vous, les grandes voix, parce que vous avez plein de choses à dire. Donc on se retrouve dans une dernière partie. Dans quelques secondes, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Ève Roger, un gros rendez-vous la semaine prochaine, de grosses attentes autour du Ségur de la santé évidemment. On a bien envie de savoir comment ça va se passer, le mode d'emploi. Évidemment, ça va être compliqué aussi à mener.
Alors là, pour une fois, on va parler de certitude. C'est lundi après-midi, c'est à 15h30, c'est ouvert par le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a plus de 200 invitations qui ont été lancées au monde de la santé, pas seulement le monde de l'hôpital, les généralistes. Et donc ils vont tous discuter évidemment des sujets qu'on connaît un peu déjà, c'est-à-dire surtout les salaires, les lits, mais ça va avec les compétences, et puis et surtout sur la gouvernance de l'hôpital, qui est le patron à l'hôpital, qui doit diriger l'hôpital, rôle des ARS, c'est tout ce sujet-là qui sont des sujets difficiles et complexes dont ils vont parler. Mais ce qui est certain, c'est que là pour les deux là, ils sont verts. Olivier Véran est en vert et les soignants sont en vert. Alors les soignants, pourquoi? On le comprend, ils sont sortis rehaussés de cette crise du Covid, haut la main, la crise a été bien gérée, et puis ils sont applaudis tous les soirs. Peut-être un peu moins maintenant.
Ouais, malheureusement.
Et donc ils comptent beaucoup sur le soutien de ceux qui les applaudissaient pour les soutenir dans ces rondes de négociations.
Et puis Olivier Véran a déjà ouvert un peu les vannes, il a déjà prévenu.
Ah, c'est l'argent magique. Je crois qu'on a bien compris que ça arrive, ne sais pas d'où vient l'argent, mais je pense qu'il a déjà promis aux infirmières, il y en a 250 000 qu'elles remonteraient au niveau du salaire de l'OCDE. Donc en gros, ça fait quand même 400 euros par infirmière, par mois. Ça fait 2 milliards d'euros.
C'est pas négligeable.
Voilà, 2 milliards d'euros.
On les trouve.
Donc je vous dis, là, les indicateurs sont au vert. Après, les négociations vont évidemment se tenir sous la houlette, comme on dit, de Nicole Notat, ex-patronne de la CFDT. Et puis on a jusqu'à mi-juillet. Puis à mi-juillet, il y a la loi de finances rectificative de la Sécurité sociale, du projet de loi de finances. Et pour tout de suite, alors ils l'ont dit, il faut que les soignants nous croient, on va tout de suite leur donner de l'argent. Donc c'est, pour une fois, les choses sont claires.
Voilà, alors on attend quand même la monnaie sonnante et trébuchante, mais ça viendra. Et Nicole Notat et Mickaël Darmon sera à la manœuvre. Nicole Notat, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. On va rappeler quand même qu'elle était soutien d'Emmanuel Macron en 2017.
Alors d'abord, c'était la seule femme à diriger en France un syndicat. Donc déjà, on va quand même le rappeler, c'était la CFDT. C'était à l'époque, effectivement, entre autres de 1995, lors des grandes grèves à cause de la réforme de la protection sociale, quand Alain Juppé était à Matignon. Elle avait d'ailleurs soutenu aussi ce plan Juppé. Elle avait quitté en 2002 la Confédération. Après, effectivement, en 2017, le temps a passé. En 2017, elle avait soutenu Emmanuel Macron, était plutôt en réserve de la Macronie, assez discrète. Moi, je l'avais rencontrée à l'époque, peu après l'élection. Elle m'avait dit qu'il faudra aider le président, mais on verra comment. Bon, en clair, elle était en réserve, quelque part, de la République, au moment où il faut sortir le joker, qui est le signal social, qui est le tournant. On est à la fin du quinquennat, et avec tout ce que l'on dit, on voit bien qu'il y a un besoin. Alors, elle va piloter le plan hôpital, mais aussi, surtout, faire une évaluation pour éviter la paupérisation. Mmh. L'année de mission assez précise aussi, pour éviter la paupérisation des personnels soignants. Et ça, c'est faire remonter tout ce que les personnels soignants veulent dire depuis beaucoup de temps et qui n'ont pas obtenu, qui n'arrivent pas à être écoutés. Donc de ce point de vue-là, et au fond, c'est une sorte de médiatrice de l'hôpital. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette demande avait été faite par l'aile gauche de la Macronie, en particulier des députés, dont une qui est passée dans le nouveau groupe depuis quelques jours, Émilie Cariou, qui avait, depuis quelques temps, avait demandé en disant il faudrait qu'il y ait absolument une médiatrice de l'hôpital ou un médiateur de l'hôpital. Voilà, ils sont partis, Macron le fait. Quelque part, il entend les signaux sans leur dire, sans rien dire. On voit bien, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il est à la recherche, il tâtonne. Ouais. Sur le nouveau ouais. projet.
Alors c'est diversement apprécié hein, la nomination de Nicole Notta. Forcément. Évidemment, Emmanuel Dutheil, un mot peut-être là-dessus avant de conclure avec vous sur Facebook et le travail.
Oui, effectivement, Nicole Notta, c'est quelqu'un d'assez clivant, même du côté ah oui. du monde syndical. Alors, si c'est je ne dis pas d'annerie, Mickaël, je crois que la CGC a été dirigée par une femme aussi, il y a de ça quelques années, mais effectivement, c'est la femme la plus emblématique du monde syndical. Et surtout, elle a réussi une reconversion de chef d'entreprise assez impressionnante, puisqu'elle avait monté une agence de notation sur la responsabilité sociale et environnementale. Récemment, elle a aussi travaillé avec Jean-Dominique Senard, qui est maintenant le patron de Renault, à définir finalement à quoi sert une entreprise. Donc effectivement, là aussi, il va falloir réussir une médiation de l'impossible. Mais si par chance, comme disait très bien Yves Roger, il y a un peu d'argent magique au bout de tout ça, ça sera toujours un peu plus simple.
Ouais. Un mot sur Facebook et le travail en quelques secondes.
Oui, parce que alors, c'est dommage qu'il reste que quelques secondes pour ça, parce que c'est oui, passionnant. C'est Facebook vient d'annoncer qu'il pense que d'ici 5 à 10 ans, la quasi-totalité de leurs salariés seront en télétravail. C'est-à-dire que tout va être réinventé si jamais de nombreuses entreprises partent sur cette voie. Parce que ouais. ça veut dire qu'on a besoin beaucoup moins de locaux d'entreprise, c'est-à-dire que nous, si on reste travailler à la maison, on n'est pas obligé d'être à côté de notre travail si Exactement. On n'y va que quelques bah, fois. On peut aller habiter un petit peu plus loin. Si on va habiter un petit peu plus loin et qu'on va que quelques fois au travail, on n'a pas du tout besoin des mêmes voitures. Et un détail, on va finir là-dessus si vous voulez. C'est-à-dire que si je vais pas au travail tous les jours, moi aujourd'hui, je suis pas en chemise comme je serais si j'étais avec vous en studio. J'ai pas... Oui, mais vous,
bah, bien sûr,
j'entends Yves Roger là qui est en train de ricaner.
Non, mais vous avez raison.
Mais c'est tout bête. Mais vous savez. Oui, mais vous savez quoi? C'est-à-dire que derrière, vous faites tomber tous les pressings. Parce qu'ils travaillent de quoi? Uniquement de ce qu'on met pour aller au travail quasiment et des robes de mariée.
Et voilà, donc tout est
lié. On se mariera peut-être toujours, mais on n'ira plus au travail.
Bon, ben voilà, la boucle est bouclée. Bon, merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Comme ça, on connaît aussi votre tenue du jour et les grandes voix. Merci à vous. Yves Roger, Mickaël Darmon, je précise, Marc Fesneau est votre invité. Et votre invité dimanche, 10h à 11h, le grand rendez-vous sur Europe 1, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Emmanuel Dutheil. À bientôt.
Merci, à lundi.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Lionel Gougelot, le 19h, complet dans une seconde.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Après 19h, on se tourne vers l'actualité de demain, comme chaque soir, le second tour des municipales. Ça y est, on a la date, le 28 juin prochain. Qu'en pensent les candidats? Comment faire campagne après deux mois de confinement? Je pose la question ce soir à Louis Alliot, mon invité, le candidat Rassemblement National à la mairie de Perpignan. C'est juste après ce journal. Et puis à 19h30, comme chaque vendredi, vous le savez, on passe en mode week-end dans votre grand journal du soir. Des idées de balades à faire dans les 100 km, hein, pas plus. Et puis les bons conseils culture de la rédac. Musique, cinéma, gastro, c'est jusqu'à 20h et c'est avec vous également au 39-21. Vous avez la parole. On est ensemble et on regarde ensemble le monde changer jusqu'à 20h sur Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Nous avons déjà l'expérience du premier tour où nous avons su montrer qu'on pouvait venir voter en sécurité. On peut encore s'améliorer d'ailleurs pour le second tour.
La satisfaction d'une majorité des élus locaux après l'annonce par le gouvernement de l'organisation du second tour des municipales le 28 juin prochain. Il faudra venir masquer. Attention, la date pourrait être repoussée malgré tout en cas de rebond de l'épidémie.
Renault ne doit pas fermer Flins. La mise en garde de Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1 a-t-elle rassuré les salariés du site? Nous serons sur place dans un instant.
60 chefs cuisiniers publient une lettre ouverte aujourd'hui. Ils demandent au gouvernement de ne pas aller trop vite, de ne pas précipiter la réouverture des restaurants.
Et puis à la fin de ce journal, un inédit de Johnny, une chanson de 1968, on vous fera écouter le morceau. Du côté du ciel, Anissa.
Eh bien demain, c'est assez couvert avec une perturbation qui traverse le pays, qui nous apporte pas mal de pluie, des températures en baisse et même quelques coups de tonnerre. Je vous donne tout le détail de ce samedi très agité à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Aux urnes, mais masqués. Les quelques 16 millions d'électeurs des 5000 villes de France qui attendent le second tour des municipales sont donc appelés à voter le 28 juin prochain.
Ce sera le dernier dimanche de ce mois de juin. Un scrutin qui sera organisé sous très haute sécurité sanitaire. La date pourrait même être repoussée si
jamais. On constate un rebond de l'épidémie, a prévenu Édouard Philippe, le Premier ministre, aujourd'hui. Mais cette date semble satisfaire la majorité des élus locaux qui imaginaient mal, il faut le dire, un report de plusieurs mois avec toutes les difficultés que cela supposait. Écoutez par exemple la réaction d'Agnès Lebrun, maire de Morlaix. Elle est porte-parole de l'Association des maires de France.
Tout est inédit naturellement dans cette crise et c'est pour longtemps d'une certaine façon. Les mœurs sociales ont évolué et par conséquent, les mœurs politiques vont également évoluer. Mais nous avons déjà l'expérience du premier tour où nous avons su montrer qu'on pouvait venir voter en sécurité. On peut encore s'améliorer d'ailleurs pour le second tour, notamment avec le masque. Pour ce qui est de la campagne, effectivement, c'est un enjeu et un challenge, puisque le tractage, le porte-à-porte, les réunions publiques, enfin tout ça, il va falloir imaginer autre chose. Chacun devra être inventif. Maintenant, la campagne entre les deux tours, traditionnellement, elle est très courte. Là, elle est un peu plus longue, hein, d'une certaine façon, donc ça laisse aussi un peu de temps pour réfléchir et pour faire passer les messages.
Agnès Lebrun, maire de Morlaix, des propos recueillis par Jean-Rémy Baudot.
Et justement, sur ce second tour fixé, désormais, je recevrai dans un instant le député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, Louis Alliot, sera mon invité.
J'ajoute que pour faciliter l'organisation de ce scrutin, Philippe Bas, le président de la commission des lois au Sénat, propose d'élargir le système du vote par procuration en permettant notamment pour chaque électeur de voter pour deux autres personnes alors que pour l'instant, on ne peut voter que pour un autre électeur.
Ah oui. Alors l'usine Renault de Flins ne doit pas fermer. Voilà les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il a été très clair, hein. C'était ce matin d'ailleurs sur Europe 1. Hein. Pas question pour le constructeur français de laisser tomber ce site historique de la marque aux losanges.
Même s'il n'a jamais été question de fermeture à proprement parler de cette usine de Flins, des inquiétudes subsistent pour l'avenir, surtout quand on sait que le constructeur prépare un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros. Alors les déclarations du ministre ont-elles rassuré sur place? Reportage Élise Dangean.
Aucune information. Nous, on l'a appris comme ça à la télé.
Les salariés de l'usine de Flins sont toujours très inquiets, notamment par l'attitude de leur direction. Silence radio jusqu'à présent, alors ils craignent le pire, que le changement d'activité prévu pour le site s'accompagne d'une suppression d'emplois, voire que tout ça ne soit qu'un écran de fumée. Olivier Augustin travaille ici depuis 25 ans. Il est délégué CGT.
C'est du baratin parce que Flins, c'est un gros morceau de 3500, 4000 travailleurs, CDI, plus les intérimaires, les sous-traitants. Et effectivement, S'ils disent tout de suite Flins ferme demain, ça c'est sûr que ça va mal se passer. Alors du coup, ils manœuvrent.
Et puis il faut le dire, une incompréhension, car même si le groupe est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, les salariés se pensaient à l'abri, à tort, selon Thierry Gonod de la CGT.
Il y a une entreprise qui a fait plus de 25 milliards de bénéfices ces 10 dernières années. Et à la première bourrasque, le capitaine se propose de jeter l'équipage par-dessus bord pour alléger le bateau.
Tous attendent donc avec impatience le 29 mai prochain et la présentation du fameux plan d'économie de 2 milliards d'euros.
Élise Dangean sur le site Renault de Flins. Les concours de l'enseignement supérieur, le CAPES et la GREG notamment, vont être reprogrammés à partir du 16 juin prochain. Ces concours s'étaleront jusqu'à la mi-juillet avec de nouvelles règles très strictes pour l'organisation des épreuves aussi bien écrite chorale.
C'est une décision de justice qui était très attendue par les entreprises en conflit avec leur société d'assurance.
Oui, un jugement qui vient de tomber et qui pourrait d'ailleurs donner des sueurs froides aux assureurs. La justice vient de donner raison à un restaurateur parisien, Stéphane Manigold, qui reprochait à son assureur AXA de lui refuser l'indemnisation de ses pertes liées au coronavirus. Clément Le Saffre, que faut-il vraiment comprendre de cette décision ?
Eh bien, Stéphane Manigold accuse AXA d'interpréter dans son intérêt les termes du contrat. Le restaurateur est en effet couvert en cas de fermeture administrative, mais l'assureur estime, lui, que la fermeture liée aux mesures sanitaires ne rentre pas dans ce cadre. Le tribunal de commerce de Paris a donc tranché en faveur de Stéphane Manigold, forcément heureux.
Ah ben, c'est un bol d'air incroyable. Il faut savoir que depuis le 14 mars minuit, on rentre plus 1 euro de chiffre d'affaires. Le magistrat du tribunal de commerce de Paris vient de redonner de l'espoir à tous les chefs d'entreprise.
AXA, de son côté, va faire appel. L'assureur estime que le juge des référés a uniquement donné raison au restaurateur sur la forme. Oui, les préjudices subis doivent être indemnisés. Mais, selon Éric Lemaire, porte-parole d'AXA, le tribunal n'a pas tranché si oui ou non l'interdiction de recevoir du public peut être assimilée à une fermeture administrative.
Nous devrons certainement aller devant un juge du fond qui dira si oui ou non les clauses de perte d'exploitation de M. Manigold s'applique. Nous pensons que dans son contrat, qui est un problème de fermeture administrative, ça ne peut pas s'appliquer à un arrêté de portée générale.
Reste à savoir quelle sera la portée de cette décision. Selon Stéphane Manigold, une brèche a été ouverte dans laquelle les restaurateurs pourraient s'engouffrer. Faux, Répond AXA, son cas est très spécifique. 99% des contrats de restaurateurs ne présentent pas le moindre doute sur l'absence d'indemnisation.
Les explications de Clément Le Saffre.
Dans l'actualité également, cet appel de grands restaurateurs français, ils demandent que l'on ne se précipite pas trop dans les restaurants lors de la réouverture.
Cela paraît étonnant, mais compte tenu de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvent certains professionnels, mais pour ces chefs comme Olivier Nasty, restaurateur près de Colmar, l'essentiel est surtout que l'État accompagne ces restaurateurs pour qu'ils puissent rouvrir leurs tables dans les meilleures conditions possibles.
Entre les grandes tables et petites tables, on a tous un modèle économique différent. Et donc, la demande, elle était pour ceux qui ont la chance de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions, on pourra ouvrir. Et d'autres qui n'ont pas cette chance, d'autres qui se retrouvent peut-être reculés, qui n'ont pas les équipes, qui puissent avoir la possibilité de fermer. Et là, la demande est faite pour qu'il y ait un accompagnement pour cette profession qui est en réelle souffrance, hein, on le sait. Il faut que chacun ait le libre choix de le faire. S'ils ne le sentent pas, il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de le faire parce qu'ils vont le faire dans de mauvaises conditions. Et par la suite, il va y avoir des contrôles et on va devoir refermer leur restaurant par fermeture administrative ou bien on va mettre des punitions sur des maisons comme ça qui aujourd'hui n'en ont pas besoin. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Mais il faut que je sente que j'ai un appui sur le long terme à mes côtés.
Propos recueillis par Marion Gauthier. Au Pakistan, une centaine de personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé près de Karachi ce matin, juste avant l'atterrissage. L'appareil, pour une raison encore inconnue, s'est écrasé sur des habitations, pleine zone résidentielle. Parti de Lahore, cet avion transportait des passagers partis fêter la fin du Ramadan à Karachi. Un premier bilan tout à l'heure faisait état d'une quarantaine de victimes.
Les sports maintenant, et cette question qui intéresse les fans de foot, pourquoi pas un retour des fumigènes dans les stades?
Vous savez que ça fait des années, hein, années qu'ils sont interdits, ces fumigènes, à cause de leur dangerosité. Et pourtant, la proposition, figurez-vous, figure dans un rapport parlementaire sur le supporterisme qui vient d'être dévoilé. Et là, pour le coup, on est vraiment à contre-courant de la tendance au tout sécuritaire dans les stades, Axel May.
Oui, la publication d'un rapport sur l'ambiance dans les stades peut surprendre alors que depuis plus de deux mois, les compétitions sont à l'arrêt. En fait, l'Assemblée nationale a lancé cette mission d'information bien avant la pandémie. Mais il n'empêche, proposer un retour des fumigènes, même de manière très encadrée, a de quoi interpeller. Écoutez l'ancienne ministre des Sports, Marie-George Buffet, qui a coécrit ce rapport parlementaire.
C'est quasi impossible d'empêcher l'entrée et l'utilisation des fumigènes dans les stades. Les fumigènes maintenant sont très petits, etc. Les fumigènes, c'est une partie de l'expression des supporters. Donc, on demande une sorte de négociation pour qu'on puisse déterminer des moments où ils pourront utiliser les fumigènes. Mais s'il y a le moindre incident, ce ne sera pas la responsabilité du club, ce sera la responsabilité du groupe de supporters.
C'est vrai aussi qu'il y a une situation un peu hypocrite, paradoxale, avec par exemple des clubs de foot qui négocient discrètement avec les supporters le nombre de fumigènes qu'ils vont allumer pour espérer écoper d'une amende et éviter un huis clos. La division nationale de lutte contre le hooliganisme émettait en tout cas dès l'an dernier des réserves importantes à un retour officiel des fumigènes.
Et puis, tout à fait autre chose maintenant, ce nouveau titre inédit de Johnny Hallyday, Lionel Bougeot, qui va ravir les fans.
Je ne suis bien comme ça, je veux quelqu'un pour partager ma joie.
Très étonnant, hein. Très étonnant, c'est une chanson enregistrée en 1969, figurez-vous,
on le reconnaît à peine.
Morceau retrouvé par la maison de disques Universal Music. En fait, c'est pour la préparation d'un coffret à paraître à la fin du mois. La chanson s'intitule « La nuit avec moi ». Effectivement, on imagine déjà l'effervescence chez les fans de Johnny.
Votre grand journal du soir, c'est avec Lionel Gougelot et Nathalie Lévy.
Avec demain en France, dans un instant, les vignerons bordelais vont s'adapter à la crise sanitaire qui bouscule le marché des grands vins. Et oui, on se projette vers demain.
Et puis dans Demain le Monde, ce sera avec Didier François, nous reviendrons sur la situation de plus en plus tendue entre la Chine et Hong Kong.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sur Europe 1, la suite du journal, Lionel Gougelot, Nathalie Lévy.
Et on regarde vers demain chaque soir dans votre grand journal du soir. On commence par Demain en France. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie.
Alors en raison du confinement, la célèbre semaine des primeurs où sont évalués les vins de Bordeaux 2019 a été annulée inévitablement. Alors les vignerons, bah, ils s'adaptent.
Hein. Oui, organisée en principe début avril, hein, c'est la grand messe des Bordeaux. Hein. Événement unique au monde, hein, 6000 personnes dont la moitié est étrangère. Le gratin des marchands et des négociants qui courent de château en château pendant une semaine pour déguster ce fameux vin primeur, un vendangé à l'automne et mis en vente Deux ans plus tard, ce sont aussi conviés les meilleurs journalistes spécialisés en nectar de la planète, hein, des Américains, des Anglais, des Asiatiques. Après les avoir tous goûtés, ils vont les noter, ce qui permettra de les évaluer et de fixer un prix à ces vins. Tout ça est tombé à l'eau avec le Covid, au moment où le vignoble bordelais se coltine déjà le Brexit et les taxes américaines.
Ouais, dites-nous Jean-Pierre, j'imagine quand même que les vignerons ont mis sur pied un plan B, non ?
Exactement Lionel, l'association des producteurs va faire parvenir aux cadors de la rubrique œnologie, ces fameux prescripteurs basés à Londres ou à San Francisco, des échantillons de grands crus qu'ils pourront donc goûter et noter. Ensuite, début juin, l'association va organiser à Bordeaux puis à Paris des ateliers de dégustation avec protocole sanitaire, attention, entre 5 et 8 clients, pas plus, et deux serveurs pour leur faire tester toutes les pépites 2019. Enfin, fin juin, une délégation de producteurs doit visiter une quinzaine de métropoles étrangères et il faut dire que 70% du Bordeaux est exporté. Les vignerons comptent ainsi toucher les trois quarts de leurs clients fidèles. Soyons honnêtes, hein, les très grands crus n'ont pas de soucis à se faire, Nathalie, souvent déjà vendus avant même les vendanges. Mais pour Renan Laborde, le patron de l'association, ce dispositif inédit va surtout aider les petits producteurs qui redoutent une baisse des marges et une comptabilité dans le rouge, comme un bon Bordeaux.
Ah, comme vous y allez. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. Merci à vous. Alors demain dans le monde, c'est avec vous Didier François. Bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous emmenez à Pékin, où vient de s'ouvrir le Congrès national du peuple.
Now please all rise up and sing the national anthem.
La plus haute instance législative de Chine, totalement contrôlée par le Parti communiste,
oui,
hein, ça va sans dire.
Absolument, mais ne vous y trompez pas, parce que derrière les hymnes, les sourires et les applaudissements, la Chine est bel et bien passée à l'offensive contre le mouvement démocratique de Hong Kong. Sujet absolument prioritaire pour les dirigeants du parti, et qui passe d'ailleurs avant les discussions sur les modalités de sortir de l'épidémie du Covid-19 ou la façon de relancer l'économie chinoise, puisque une des toutes premières décisions de ce Congrès national du peuple a été de voter une loi contre la sédition, la subversion, la sécession et la trahison, ce sont ces termes, et c'est en fait un arsenal juridique complet qui permet à Pékin de prendre directement la main sur la répression à Hong Kong au nom de la sécurité nationale.
Curieuse priorité. Hein.
Mais alors, dites-nous, Didier, quelles ont été les réactions à Hong Kong ?
Eh bien, la consternation, évidemment, et une très vive inquiétude. Je vais vous faire écouter deux réactions. D'abord, celle de la députée Tanya Chan.
C'est un triste jour pour Hong Kong.
Voilà, et puis celle de son collègue, Dennis Kwok.
C'est la fin de Hong Kong.
Voilà, en fait, ce qu'ils disent tous les deux, c'est la même chose. Au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, en 1997, Pékin avait promis de respecter le principe d'un pays unifié, mais avec deux systèmes politiques différents. Aujourd'hui, Pékin tente d'imposer à Hong Kong le système communiste au nom de l'unité inaliénable de la Chine.
Merci, merci Didier François. On vous retrouve évidemment lundi prochain dans votre grand journal du soir.
Et merci à vous Lionel, à tout à l'heure, hein, à 19h30, à nouveau point sur l'info. Anissa, alors, ce week-end.
Eh bien, nous avons déjà demain une perturbation qui va traverser le pays, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. Des pluies, parfois même soutenues, notamment dans le Grand Est. Cette perturbation, au fil des heures, elle va s'avancer en direction du sud pour toucher l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Donc, ça sera humide et très couvert demain, sauf sur le pourtour méditerranéen. Dimanche, ça s'arrange, le temps redevient sec, il fait très beau et après, c'est parti pour de nombreux jours. Les températures, elles sont en baisse demain, 10 à 18 degrés demain matin. Demain après-midi, il fera 16 à 22 sur l'ensemble du pays, c'est pas chaud. 17 à Aurillac, 20 à Rouen, 21 à Reims et au sud, toujours aussi doux. 25 à Lyon et jusqu'à 30 à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec dans un instant l'interview de demain.
Et oui, le second tour des municipales aura lieu le dimanche 28 juin prochain. Mon invité, Louis Alluot, le candidat à Rassemblement National à la mairie de Perpignan, dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy. Le second tour des municipales se tiendra donc le 28 juin prochain. Votre invité ce soir est Louis Alluot, candidat du Rassemblement National à la mairie de Perpignan.
Bonsoir Louis Alluot.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes présenté au municipal de Perpignan et puis vous avez gagné votre place au second tour avec un peu plus de 35% des voix, ça c'était le 15 mars dernier. C'était face au maire sortant Jean-Marc Pujol, le Républicain. Le second tour, ça y est, on le sait, le 28 juin prochain, dernier dimanche du mois de juin. Vous pensez quoi de cette date ?
Bah écoutez, je pense qu'elle faisait partie des deux dates possibles avant l'été, le 21 ou le 28, et que le gouvernement a pris une marge de sécurité supplémentaire qui est liée au déconfinement que l'on peut observer chacun dans son département, c'est-à-dire qu'il se passe plutôt
progressivement, mais qui se passe plutôt bien.
Alors, je vous repose la question, est-ce que vous approuvez dans ce cas cette date ?
Ben, moi, ce n'est pas une histoire d'approuver, puisque j'y étais favorable à l'origine. J'ai voté la loi en tant que parlementaire qui a fixé le timing, et je pensais bien qu'on ne pouvait pas laisser comme cela un premier tour se réaliser avec un hypothétique second tour après l'été, et encore moins, pour tout vous dire, une hypothétique réélection, c'est-à-dire refaire les deux tours, que je trouvais parfaitement injuste et même anticonstitutionnel.
Mais est-ce que c'est bon pour la démocratie, ce second tour, là, comme ça, finalement, assez rapproché ? Est-ce qu'on ne risque pas une abstention tout aussi importante que le 15 mars, voire bien plus grande encore, et donc une élection ensuite qui sera pas très légitime, rien, une élection au rabais ?
Oui, mais rien ne garantit qu'au mois de septembre ou d'octobre, nous ne soyons pas dans les mêmes dispositions s'il y avait un rebond de l'épidémie. Et au mars et au mois de mars de l'année prochaine non plus. Il n'y a pas de certitude. Le travail maintenant des politiques, des candidats, et j'allais dire du monde médiatique, c'est aussi d'aller inciter les électeurs à se déplacer.
Alors comment vous allez faire, justement, comment vous allez faire campagne, vous, tenir un meeting, est-ce que ça c'est exclu par exemple chez vous ?
Oui, mais la campagne électorale de deuxième tour n'aurait duré que 4 jours, donc il faut arrêter de dire la campagne. La campagne a eu lieu. On a pu juger du bilan des maires sortants et on a pu proposer, j'allais dire, des solutions pour le mandat d'après.
Donc, oui, mais attendez, voilà, Louis Alliot, j'entends bien, mais vous savez bien que la priorité aujourd'hui des administrés, c'est quand même pas d'être dans cette logique de, avec cette période extrêmement éprouvante, de penser aux élections. Donc il va bien falloir leur remémorer certaines choses. Comment vous allez faire passer des messages ?
Écoutez, se remémorer quoi ? La démocratie n'est pas moins mieux lotie que le commerce, que les grandes surfaces, etc. Et je ne vois pas, moi, le 28 juin, ce qu'on risquerait de plus dans des bureaux de vote, de passer 20 minutes à voter, que de passer demi-heure ou une heure dans des files d'attente, dans les supermarchés ou dans tout autre magasin, ou même sur les plages, ou même, voilà. C'est comme ça, donc à un moment donné, il faut que la démocratie aussi vive. Il y aura de l'abstention, on essaiera de tout faire pour qu'il n'y en ait pas beaucoup.
Vous ferez surtout campagne sur Internet, vous, Louis Alliot ?
Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a aussi le boîtage. On peut quand même mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Il y a tous les médias locaux qui seront évidemment mobilisés. Puis il y a le téléphone, tout simplement. Hein. Beaucoup de Français aujourd'hui ont des téléphones et c'est aussi un moyen de les toucher un par un, par téléphone, en prenant toutes les garanties, évidemment, qui vont avec.
Et donc, avec ça, vous vous dites, les gens se déplaceront pour venir glisser leur bulletin dans l'urne. Vous êtes confiant ?
Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne se déplacent pas. Dans tous les cas de figure, rien n'est...
Il y a quelques raisons, quand même.
Non, c'est pas vrai. Regardez. Moi, je suis dans un département, c'est vrai, j'ai la chance d'être dans un département en vert.
C'est ça.
Et je peux vous dire que petit à petit, les gens sortent, les gens consomment, et les gens, ils leur tardent de sortir.
C'est vrai que ça change la donne.
Je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas voter, alors que c'est un instant important qui va d'ailleurs entraîner, c'est-à-dire la gestion de 6 années à venir.
Alors,
ou alors il n'y a plus de démocratie.
Louis Alliot,
il y a quelqu'un et puis voilà.
Bien sûr. Alors, pour élargir un petit peu quand même, vous souhaitez ce second tour des municipales rapidement et dès le départ, vous l'avez dit, c'est vrai. Aussi peut-être pour passer un peu à autre chose, de raison peut-être. Vous allez me dire si je me trompe, mais pas de résultat très très positif pour le Rassemblement national au premier tour. Et puis quand même, aucun profit tiré de cette pandémie de Covid-19 pour le Rassemblement national.
Écoutez, ce n'est pas des questions que je me pose. Il y a un problème, j'allais dire, de municipal que j'ai développé tout au long de ma campagne électorale. Il y a un énorme souci d'insécurité et aujourd'hui encore de règlement de compte de dealers à coups d'armes à feu.
Oui.
Et c'est moi vous dire que les Perpignanais sont très loin de savoir ce que l'on pense au RN de ceci ou de cela.
Oui, mais comme vous en êtes, je vous repose quand même la question.
Voilà.
Bien sûr, mais il y a quand même deux sujets. Et vous êtes député Rassemblement National, donc vous voyez plus large que votre ville. Donc expliquez-moi, par exemple, pourquoi le Rassemblement National n'a tiré aucun profit de la pandémie Covid-19 ?
Mais pourquoi voulez-vous profiter de la pandémie Covid-19 ? Dans tous les cas de figure, les maires qu'elle avait déjà, dans les villes comme Fréjus, dans les villes comme Hénin-Beaumont, voilà, elle les a regagnées dès le premier tour. Donc, mon ami Robert Ménard à Béziers a gagné avec 67%. Hein. Voilà, donc je veux dire, voilà, les bilans sont bons. Eh bien, il y a des villes aujourd'hui, je crois qu'on aura 130 au second tour avec une présence de liste RN. Voilà, les enjeux sont là. On verra bien ce que donne ce second tour. Mais je pense qu'il fallait réellement, pour des problèmes d'ailleurs, pas seulement politiques, mais juridiques et constitutionnels, il fallait, comme on dit en droit, purger ce second tour, parce que sinon, ça allait, j'allais dire, poser d'énormes problèmes juridiques et démocratiques.
Marine Le Pen, Louis Alliot, elle est en dents de scie dans les sondages depuis le début de l'épisode sanitaire début avril. Elle a accusé souvent, régulièrement, la majorité de mentir sur absolument tout, les masques, etc. Elle a parlé souvent de scandale d'État, etc. Pour autant, ça n'a pas porté ces thèmes, notamment celui de la menace migratoire qui serait vecteur de la pandémie. Ça n'a pas porté dans les sondages, précisément. Elle a même été en recul de 3 points. Comment vous l'expliquez ?
C'est autant de jalons de vérité qui sont posés, j'allais dire, sur cet océan de mensonges et de non-dits. On va voir les plaintes maintenant d'un certain nombre de personnes, des médecins. On va pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé avec les responsabilités de chacun. Mais je peux vous dire encore une fois, pour aller quand même au contact depuis déjà longtemps de mes administrés dans ma circonscription, que les gens ne sont pas contents. Il faut faire attention entre ce que les
gens sont peut-être pas contents, Louis Alliot, mais les gens n'ont pas suivi Marine Le Pen quand elle a dit que l'État avait menti sur tout. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un mauvais bilan d'étape quand même, cette stratégie?
Vous verrez bien à la prochaine élection. Là, nous ne sommes que dans une analyse à chaud d'une crise que nous venons de vivre et que nous vivons encore. Donc ça n'a aucune influence particulière. Il n'y a pas d'élection. Les sondages, les baromètres, voilà. Ce qui est important, c'est l'élection. Nous verrons plus tard. Mais je pense que nous avons bien fait de dire un certain nombre de vérités par rapport aux masques, par rapport à l'industrie française qui est partie se délocaliser.
Alors justement, on va y venir.
Etc, etc, etc.
Alors justement, l'industrie française, le gros sujet du moment, c'est Renault. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire avec le groupe Renault? On a entendu ce matin Bruno Le Maire sur Europe 1. Il faut sauver le site de Flins. Il ne doit pas fermer, a dit le ministre de l'économie.
Ben, j'espère bien, oui, c'est quand même une usine où l'État français est actionnaire. C'est le fleuron de l'industrie automobile française et l'État doit tout faire, non seulement pour préserver cette usine-là, mais d'autres usines et l'emploi.
Donc l'engagement de l'État est là, vous êtes rassuré?
Ben, écoutez, je suis pas très rassuré parce qu'il a eu une phrase extrêmement ambiguë en disant « nous essaierons de sauver ce qui peut l'être ». En général, ça laisse augurer de mauvaises solutions. Donc j'espère que ce gouvernement prendra la décision qui s'impose parce que le peuple français attend un certain nombre de relocalisations et d'aides au développement de l'emploi sur le territoire français et européen.
Un mot encore, il y a le Ségur de la Santé qui commence lundi après-midi. C'est très important, évidemment, de revaloriser le personnel soignant en première ligne dans cette guerre contre le coronavirus. Nicole Notta, ancienne dirigeante de la CFDT, a été hier nommée pour le coordonner. Vous avez confiance en elle pour mener ce projet ambitieux?
Non, très honnêtement, moi, je n'ai pas confiance en des personnalités qui ont été à des postes clés à des périodes et qui n'ont pas été, il faut bien le dire, des responsables emblématiques d'une quelconque réussite. Donc non, voilà, elle fait partie du système, elle a été mise là pour gérer la crise. On verra bien, mais nous serons extrêmement vigilants aux moyens qui seront ceux des hôpitaux, à la réorganisation des ARS et, j'allais dire, de la toute-puissance de l'administration par rapport à la médecine. Et sur ces sujets-là, je peux vous dire que beaucoup de médecins sont aujourd'hui sur notre orientation et ils se défendront. Ils auront raison de le faire et nous serons derrière eux.
Les ARS, les agences régionales de santé. Merci beaucoup, Louis Alliot, d'avoir répondu ce soir à mes questions.
Merci.
Député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Et c'est parti pour le 28 juin, le second tour. Merci à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir dans un instant, Nathalie Lévy.
On est vendredi et vous savez quoi, le vendredi on passe en mode week-end, en tout cas dans votre grand journal du soir. Les bons conseils, culture de la rédac, les idées de balades, de films à voir dans votre salon, tout cela c'est dans un instant avec vous aussi au 3921.
Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et Lionel Gougelot pour votre rappel des titres.
Selon Édouard Philippe, la vie démocratique doit reprendre ses droits. Le gouvernement décide de fixer au 28 juin le deuxième tour des élections municipales. Une date qui pourrait être cependant reportée en cas de rebond de l'épidémie. Il faudra porter un masque pour glisser son bulletin dans l'urne. La France regrette la décision britannique d'imposer une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs qui arrivent sur le territoire du Royaume-Uni. Paris qui se dit prête à la réciprocité, c'est-à-dire appliquer la même mesure aux citoyens britanniques qui arrivent
arriverait sur le sol français. L'Organisation mondiale de la santé estime aujourd'hui que c'est l'Amérique du Sud qui est désormais le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus, avec le Brésil qui est le pays le plus affecté. 20 000 personnes ont trouvé la mort. Renault ne doit pas fermer Flin, mise en garde sur Europe 1 ce matin de Bruno Le Maire, alors que le constructeur français prépare un plan d'économie de 2 milliards d'euros. Le ministre de l'économie qui prévient, il y aura des faillites et des licenciements dans les mois qui viennent en France. Et puis au moins une quarantaine de victimes à bord de l'avion de la Pakistan Airlines qui s'est écrasé ce matin sur un quartier résidentiel de Karachi. Il y avait une centaine de personnes, passagers et membres de l'équipage à bord. L'appareil assurait une liaison intérieure.
Merci beaucoup Lionel Rougelot, à très bientôt.
À bientôt.
Et puis Anissa, alors ce ciel de week-end fermé.
Alors, deuxième week-end de déconfinement, Nathalie. Et allez, il est mi-figue, mi-raisin ce week-end. C'est-à-dire que demain, ça va être assez agité avec une perturbation qui va traverser le pays. Alors demain matin, de la Gironde à l'Alsace, c'est très pluvieux. Dans l'après-midi, la perturbation se décale vers le sud. Du coup, c'est de l'Occitanie jusqu'aux Alpes en passant par l'Auvergne. Et là, il va pleuvoir avec parfois même des coups de tonnerre. Et puis, je vous rassure, dimanche, c'est le retour du beau temps, un temps sec et ensoleillé pour tout le monde. Et après, c'est parti pour plusieurs jours. Alors demain, les températures sont en baisse. On va peut-être te remettre une petite veste sur les t-shirts. 10 à 18 degrés demain matin. Et puis, au milieu de la journée, au meilleur de la journée, ça baisse avec 17 à Aurillac, 21 à Reims, 22 à Paris. Dans le sud, c'est un petit peu plus chaud avec 25 à Lyon, 27 à Perpignan et jusqu'à 30 degrés à Nîmes. Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et ce soir, comme chaque vendredi, votre grand journal du soir se met en mode week-end avec des balades de déconfinement à moins de 100 km de chez vous, de la musique, des films à voir à la maison, des expos, de la gastronomie. Quel programme, avec tous les bons conseils culture de la rédaction d'Europe 1.
Ouais, et puis à la fin, vous nous direz la météo de la semaine prochaine, d'accord Anissa?
Alors, je vous la prépare.
Merci.
Avec plaisir.
Alors, on va démarrer depuis Nantes, en fait. Ce soir, c'est là-bas qu'on démarre notre petit circuit du week-end, vous allez voir. Alors, de Nantes, en fait, on peut aller à la plage, évidemment, mais loin du sable et de la Grande Bleue, il y a aussi le vignoble nantais, ses champs, ses domaines, et puis son festival de musique métal. Eh oui, cette année, crise oblige, pas de musique, mais il reste le site accessible à l'année. Et 24 heures sur 24, direction Clisson pour démarrer avec vous, Charles Guyard, en balade déconfinée.
Bonsoir à tous, avis aux métalleux, le Hellfest est ouvert, le site du Hellfest, il l'a rouvert mercredi après 2 mois de fermeture et ici tous les ans vers le 20 juin, vous le savez, on y entend ça. Mais en ce moment l'ambiance c'est plutôt ça. Nous sommes à Clisson, cité médiévale noyée au milieu des vignes du Muscadet, à 35 km au sud-est de Nantes. Cette année, crise oblige, pas de Hellfest donc, mais sachez qu'on peut quand même visiter l'immense parc d'une quinzaine d'hectares, parsemé de sculptures et éléments de décor jamais démontés. Un univers à la Mad Max qu'on vient découvrir ou redécouvrir quand il n'y a pas la foule du festival. Julie et Grégory, par exemple, imaginent l'emplacement des scènes ou des fameuses backstage.
Il y a les scènes, là.
Ah, bah t'as mis une stage 1 et 2.
Voilà.
T'as tous les bars. C'est là où je crois qu'ils mettent tous les bungalows et les caravanes. Des groupes qui viennent, donc on n'y a pas accès, ça c'est sûr.
On continue un peu et on tombe sur Jérémy, un habitué du Hellfest.
Là on est dans la Warzone, c'est une scène où on a des groupes...
Plus loin, une statue monumentale domine le site.
Ça c'est la statue de Lenny. Hein.
Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead, le pape de la musique métal, a donné ici l'un de ses derniers concerts le 19 juin 2015. Juste après la disparition du chanteur, l'équipe du Hellfest lui a donc rendu cet hommage. Une statue de 15 mètres de haut, sertie de 400 têtes de mort. Un véritable mausolée signé du sculpteur Jim X, devant lequel certains viennent comme en pèlerinage y déposer une relique. Une bouteille de whisky, un ancien passe, un gobelet.
Il y a toujours ici des gens, des fanatiques qui viennent ici se recueillir.
Le Hellfest, c'est donc le recueillement pour certains, un moment de joie pour d'autres. Yann qui s'occupe de l'entretien à l'année.
Ou alors faire leur photo de mariage pour qu'elle soit à l'effigie du Hellfest. Des grands fans, il y en a beaucoup.
Il y a de quoi faire de belles photos, c'est vrai. Si les pelouses impeccablement tondues sont interdites, de nombreuses allées permettent de circuler tranquillement. Il y a des bancs et un petit bois pour rester à l'ombre. C'est ici que l'on rencontre Marc, un vrai puriste. Crête sur la tête, t-shirt de Gojira et livre du Hellfest entre les mains, il se sent chez lui.
C'est ultra cool en fait à voir. On n'a pas la musique à fond. On prend le temps d'apprécier l'endroit. Je le conseille à tout le monde, même ceux qui font pas partie de la culture métal.
Cette culture métal, Louane, 8 ans, n'en fait pas partie. Du moins pas encore, mais elle rêve d'y revenir un jour de concert bien décidé. décidée d'ailleurs. Elle sait même qui elle veut applaudir.
J'aimerais bien voir Ultra Vomit.
Les Nantais d'Ultra Vomit qui avaient mis le feu à la grande scène en juin dernier. Leur nom côtoie désormais ceux des plus grands passés ici, comme Kiss, Iron Maiden, Marilyn Manson, Rammstein, Black Sabbath ou encore Scorpion, gravés dans des plaques de métal sur lesquelles on marche, sorte de Walk of Fame du Hellfest. Et puis tenez, en dessous encore il y a tout un réseau de canalisations relié à une citerne. Pendant le festival, ces tuyaux servent à alimenter les bars en bière fraîche pendant 3 jours, mais ça, cela ne se voit pas. Pour le reste, il suffit d'ouvrir les yeux, c'est tout beau et c'est donc gratuit.
Et c'est tout beau, c'est gratuit et en plus c'est bienveillant parce que le Hellfest a récolté 195 000 euros, Charles Guyard, pour le CHU de Nantes. Près de 200 000 euros récoltés. Voilà, comme ça on boucle la boucle, c'est complet. Merci à vous Charles. Bienvenue Angèle Châtelier.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Avec vous, je connais un peu plus de titres, un peu plus de noms, je me sens un peu moins larguée. Alors, les sorties de la semaine, justement, avec des femmes à l'honneur, je connais Lady Gaga dans les retours et vous allez me dire le reste.
Voilà. Alors, on va complètement changer d'ambiance par rapport à Charles Guyard qui nous a emmené au Hellfest, puisque là, c'est le grand retour des pop stars. Alors, Sia, Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift, qui remplissent les plus grandes salles du monde et qui donnent des nouvelles cette semaine. Sia, par exemple, qui revient avec un nouveau single, Together. Déjà plus d'un million de vues sur son clip. 4 danseurs qui font une chorégraphie en plan séquence dans une pièce au mur arc-en-ciel avant que n'arrivent des dizaines d'enfants qui dansent ensemble. C'est pop, c'est coloré. Sia, dont on devrait beaucoup entendre parler cette année puisque la chanteuse prépare un film, une comédie musicale pour septembre et 2 nouveaux albums.
Bon, alors vous avez vu, je connais, j'aime bien.
Et de
une. C'est toujours Sia, on reconnaît bien sa marque.
Oui,
hein, elle a vraiment un autre tube.
Oui. Vous l'avez ?
Un classique,
Wrecking Ball de Miley Cyrus. Et bien Nathalie, sa sœur, Noah Cyrus, est elle aussi chanteuse, non pas de pop, hein, mais plutôt de folk. Et elle sort un premier mini-album aujourd'hui appelé The End of Everything, la fin de tout. Alors ce mini-album de Noah Cyrus n'est pas des plus joyeux puisqu'il parle de la difficulté d'évoluer avec une grande sœur très célèbre, notamment de faire sa place aussi dans ce milieu. Ma sœur est comme le soleil, dit-elle dans ce titre. Elle apporte de la bonne lumière partout où elle va et je suis née dans les nuages pluvieux, bénie dans son ombre. C'est si triste. Miley Cyrus qui soutient sa sœur dans cette voie qu'elle prend la musique en partageant ses chansons. Mais bon Nathalie, si on est plutôt d'humeur à danser ce soir, on peut retourner dans les années 90 avec ce duo ambiance 90s de deux immenses stars, Lady Gaga et Ariana Grande. Lady Gaga est complètement revenue ambiance années 90 plus que jamais. Alors c'est mignon parce qu'Ariana Grande a toujours été fan de Lady Gaga. Elle le tweet beaucoup depuis ce matin, visiblement très fière de partager une chanson avec la diva qui, elle, Lady Gaga, sortira un nouvel album le 29 mai.
Bon, pour l'instant, sur mon podium, c'est Sia en tête.
Oui,
hein,
c'est
je
vrai.
Le dis, hein. Enfin, perso, hein, vous aussi. Alors,
oui, moi aussi, d'accord. Complètement.
Alors, en fait, cette chanson, c'est un jour particulier pour Ariana Grande.
Oui, nous sommes le 22 mai. Et il y a 3 ans, un attentat avait fait 22 morts à la sortie de l'un de ses concerts à Manchester. La chanteuse avait rapidement rendu hommage aux victimes dans une chanson, No Tears Left to Cry, plus de larmes pour pleurer, chantant dedans avec beaucoup d'optimisme, hein, quand même, nous survolons toute cette haine, nous on fait la fête, j'aime, je vis et j'aime ça. Et allez, une dernière, on continue dans les pop stars. Ouais. Taylor Swift, qui était sur la scène de l'Olympia en septembre dernier pour un concert intimiste. La chanteuse vient de publier des lives de ce concert qu'on peut écouter. Alors c'est seulement les chansons qui apparaissent dans son dernier album Lover, comme son tube You Need to Calm Down.
Moi j'adore aussi.
Ah bon, vous aimez pas Taylor Swift?
Bah, c'est si, hein. Elle n'a pas été détruite.
Bon, bah, voilà. Merci beaucoup, merci à vous Angèle. Voilà, effectivement, que des nanas, que des femmes pour prendre le pouvoir ce week-end en musique, en tout cas.
Exactement.
Merci. On va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Laurent notamment est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes où à Bergerac, hein, c'est ça, pas loin
oui,
de Bordeaux. Avec votre épouse, vous écoutez de la musique en Dordogne. Et là, ce week-end, c'est quoi le programme?
Eh bien écoutez, c'est très simple. En fait, pendant tout le confinement, pendant les deux mois du confinement, on a un groupe de musique avec ma femme et ma fille de 13 ans. Et on a fait des lives sur Facebook tous les jours pendant toute la durée du confinement. On était tout un petit groupe là, de personnes qui nous suivaient, c'était super sympa. Et du coup, là, maintenant qu'on a l'autorisation d'aller, eh ben, on fait de la folk et puis de la country en français, en anglais. On fait un petit peu de reprise, un petit peu toutes sortes de choses. Et enfin, toutes sortes de choses dans le domaine de la folk, on va dire. Et avec ma femme à la contrebasse, ma fille au violon et moi à la guitare et à l'harmonica. Voilà.
Bon, sympa. Et vous êtes découvert peut-être une nouvelle, je sais pas, c'est une nouvelle carrière.
Exactement. En fait, finalement, ce confinement pour nous, ça a été un petit peu, on va dire, une révélation musicale, quoi. On s'est aperçu qu'on pouvait faire de la musique autrement. Et on a un petit groupe de personnes qui nous ont suivis tous les jours, depuis le premier jour du confinement jusqu'à l'autre dimanche. Hein.
Ouais.
Et donc on a pris cette habitude, puis les gens nous ont dit rejouer, etc. Donc du coup, comme on est dans un très très chouette coin, on est en Dordogne quand même, c'est super
bien,
sympa.
Ouais. Très plaisant.
Et donc on est tout au bord de la Dordogne, nous. Et donc du coup, le projet, c'est ça, notamment pour ce week-end.
Parfait.
Qui fait en plus grand soleil.
Bon, bah, c'est bon là.
Voilà.
Ça fait envie. Ça fait envie. C'est un peu trop loin pour nous. Voilà. On n'a pas les 100 km là. On est bien au-delà. Mais en tout cas, bravo. On vous suivra sur internet, sur Facebook. Merci beaucoup Laurent. À tout de suite sur Europe 1, votre grand journal du soir qui est passé en mode week-end déjà, avec toutes les bonnes infos pour être actif, content, souriant et passer un bon week-end à notre écoute déconfiné.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, comme tous les vendredis en mode week-end. Alors prenez de quoi noter, parce que vous allez passer un super deuxième week-end de déconfinement avec toutes les idées de la rédaction, Nathalie.
Eh oui, on enchaîne avec Mathieu Charrier après la musique. Bonsoir Mathieu Charrier.
Bonsoir à tous.
Alors c'est une palme d'or que vous nous conseillez de voir ou de revoir en DVD, VOD bien sûr, dans notre canapé. Ça s'appelle Une affaire de famille, du japonais Koreeda. Hein.
Oui, qui avait attiré plus de 800 000 personnes dans les salles. Il faut dire que c'est une palme d'or grand public. Vous connaissez, Nathalie, les paroles de Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Là, c'est tout l'inverse. Je vous plante le décor. Un homme, un petit garçon que l'on pense être son fils, c'est le début du film. Il pique de quoi survivre dans un supermarché et en rentrant chez eux, il tombe sur une petite fille en pleurs. Il se rend vite compte qu'elle est maltraitée par ses parents et il la ramène chez eux, dans leur foyer. C'est un petit appartement exigu dans lequel vivent également une femme, une autre petite fille, une grand-mère. Tout le monde cohabite. D'ailleurs, ils vivent simplement avec la pension de la grand-mère. Et en fait, au fil des minutes, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas tous de la même famille, qu'ils se sont choisis en quelque sorte pour vivre ensemble. Ils sont pauvres, mais ils sont heureux, ils sont pleins d'humanité, généreux. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce film.
Et alors, l'intrigue dans ce décor-là? Allez.
Alors, sans trop vous en dire, la police va un jour rechercher cette petite fille. Il la considère comme enlevée. Et puis le fils de cette famille recomposée, lui, va se rendre à la police, qui va faire éclater tout l'équilibre. Ah. Écoutez l'intention de Koreeda lorsqu'il a imaginé ce film.
Pour moi, c'est un film qui permet surtout de réunir des personnages qui ont connu l'échec. Ils ont tous échoué à fonder une première famille. Ils ont échoué dans leur mariage, dans leur vie de couple, dans leur vie de parents. Et donc, ils se retrouvent pour essayer de s'inventer une nouvelle vie et une nouvelle cellule familiale. C'est cette problématique que je voulais mettre en avant. C'est pour ça qu'ils passent par autant d'émotions. On les voit se toucher, on les voit rire. On voit leur visage souvent jouer. C'est parce qu'ils ont connu l'échec qu'ils mettent autant de volonté pour réussir à fonder cette famille.
Voilà, c'est un film effectivement qui nous fait réfléchir à la famille d'aujourd'hui, à la cellule familiale, à l'heure où les liens se distendent entre les hommes. C'est vraiment, c'est un film plein d'espoir. Et c'est aussi, si vous n'êtes pas encore amateur du genre, une belle porte d'entrée vers le cinéma japonais, qui est un cinéma fantastique. Donc voyez ou revoyez Cette affaire de famille, signé Koreeda.
Ouais, ce portrait de cette famille recomposée, ce portrait de groupe, hein, en fait, plus exactement. Un autre film pour ce week-end.
Oui, Amanda, porté par Vincent Lacoste, qui traite des attentats mais avec une certaine douceur. Ça commence dans l'insouciance d'un Paris en paix. David a 24 ans, c'est donc Vincent Lacoste. Il vit d'un petit boulot qui consiste à gérer les arrivées et départs Airbnb d'un propriétaire d'appartement un petit peu magouilleur. Et puis surtout, David est très proche de sa sœur aînée et de sa petite nièce, qui s'appelle Amanda, elle a 7 ans. Tout le monde vit de petites débrouilles, mais finalement est assez heureux dans son quotidien. Lorsqu'un jour, alors que David doit rejoindre cette sœur dans un parc public, il arrive un petit peu en retard et découvre un massacre. Des terroristes ont fait irruption sur la pelouse, tiré sur tout ce qui bougeait. Il y a de nombreux morts et blessés. Sa sœur a été tuée sur le coup et David va donc devoir désormais s'occuper de sa nièce. Alors évidemment, difficile de ne pas penser aux tueries du 13 novembre, mais la force du film, c'est finalement la douceur qu'il traverse, même après l'attentat qui est d'ailleurs à peine montré à l'image, une scène qui dure que quelques secondes, matérialisée simplement à travers des corps morts dans ce parc et un silence de plomb. Ensuite, ce qui est intéressant surtout, c'est la reconstruction des proches, la vie qui doit reprendre. Amanda, c'est un film qui vous marque sincèrement pour longtemps, c'est le film d'une génération, finalement de cette génération frappée de plein fouet par l'attentat du Bataclan. Le réalisateur Michael Herz ne tombe jamais dans le racoleur, dans la violence, dans la vengeance. C'est beaucoup plus fin et subtil que ça. Et Vincent Lacoste, évidemment, prouve une nouvelle fois qu'il est un des grands acteurs de sa génération. Donc voyez ou revoyez cette Amanda, comme le prénom. Vous trouverez ça en VOD et franchement, c'est à voir.
Très émouvant, donc hein, c'est ce qu'on retient en tout
cas. Très émouvant.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
Avec plaisir.
À très vite, évidemment.
Oui.
Merci. Diane Chénouda doit pas être loin.
Oui, je suis là, Nathalie.
Diane Chénouda, ça fait longtemps. Bonsoir, vous allez bien? Alors, Diane.
Oui, très très bien.
Vous allez nous faire partager votre coup de cœur pour le dernier spectacle de Christophe Alévèque. Il l'a joué d'ailleurs tout seul devant une salle vide. Et là, ça vient de se passer. C'était il y a 3 jours à peine au théâtre du Rond-Point.
Oui, oui, oui. Alors c'est complètement fou, hein. Mais c'était le seul moyen pour Christophe Alévèque, en fait, de s'exprimer, puisque les théâtres sont fermés. Alors on peut tous évidemment voir son spectacle, hein. Et je vous invite à le faire sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Vous allez passer un très très bon moment. Vous allez rire. Donc jouer même devant une salle vide, seul moyen pour Christophe Alévèque de sortir de ce trou noir, comme il dit. C'est comme ça qu'il a appelé son spectacle, le trou noir consacré à la crise du coronavirus. Et ce trou noir, c'est d'abord le vertige, le désespoir de l'artiste qui joue sans public.
Ce spectacle, non, cette thérapie, cette espèce hein, de thérapie personnelle, que je, ce vidage de couilles que je voudrais partager avec vous, voilà, se veut aussi bon, comme une sorte de... on en a tellement eu pendant 2 mois, un appel, un cri pour notre métier, hein. Du spectacle. Coucou, on est là. Ah, y a personne.
Voilà, alors ouais, l'absurdité hein, de la situation renvoie à cette période surréaliste, hein, il faut bien le dire, qu'on vient de vivre avec ces 2 mois de confinement, et ce n'est pas fini, hein, même là avec le déconfinement.
Bien sûr, alors une ambiance donc très étrange, c'est aussi le trou noir de cette crise du Covid qui nous a tous mis dans tous nos états. Hein.
Bah oui, quand même. Hein. Et Christophe Alévèque déroule le film de cette crise et tous ces épisodes hallucinants avec ce mordant qu'on lui connaît.
Et le grand n'importe quoi qui a atteint ces sommets d'incohérence, de stupidité, d'aberrance, de je ne sais trop quoi dans l'épisode, le feuilleton, que dis-je, la saga des masques. L'histoire des masques, tu vas voir un producteur de film avec la même histoire, hein, mot à mot. Le mec te dit non, c'est pas crédible.
Le propos est toujours très politique, hein, évidemment, avec Christophe Alévèque. Alors là, ben, il est servi hein, avec cette crise. C'est quand même du petit lait hein, pour n'importe quel humoriste de talent.
Ah, il convoque Macron, Platon, etc.,
oui.
Hein, je crois.
Oui, oui,
il
oui.
vous a dit, à vous, Diane Chénouda, comment ça lui est venu, cette idée de jouer dans une salle vide. C'est le premier artiste à remonter sur les planches de cette manière, d'ailleurs.
Oui. Absolument. Bah écoutez, oui, c'est un cri d'alarme, hein, évidemment, pour lui, une façon d'attirer l'attention. Pour lui, c'était une évidence, on l'écoute.
Je ne savais pas quoi faire. J'avais le sentiment de servir à rien du tout pendant cette période. Et puis c'était un moyen aussi de faire coucou. Coucou, on est là. Nous, le métier du spectacle. De dire, nous oubliez pas. Coucou. Ce qui m'a marqué le plus, moi, pendant toute cette période et encore maintenant, c'est que tout d'un coup, notre cerveau, c'est comme si on avait mis notre cerveau dans le formol. C'est-à-dire que toute pensée s'est arrêtée. C'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle « Trou noir ». On nageait dans l'absurde. Moi, j'avais besoin d'un exutoire, j'en pouvais plus. Là. Donc, il fallait que je me lâche, quoi.
Oui, alors il se lâche, hein, en effet. Et je lui ai demandé, au fond, si cela ne serait pas une solution pour l'instant de jouer sans public, mais en étant filmé comme il l'a fait, en attendant évidemment que les salles puissent rouvrir. Mais non, non, non. Ouais.
On ne peut pas faire des spectacles comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Nous, il nous faut du public, il nous faut une salle, il nous faut des rires, des émotions, il nous faut de la vie.
Ah oui, de la vie. Et Christophe Alévèque réclame plus que jamais la réouverture vraiment des salles de théâtre dès que possible. Il pense que c'est possible, voilà, oui. Maintenant. Et en tout cas, si vous voulez vraiment rire, et puis un rire intelligent, hein, et regarder son spectacle, on revit vraiment toutes les émotions qu'on a vécues ces dernières semaines, mais avec évidemment le recul de l'humour. Hein, l'humour qui est la politesse du désespoir, là vraiment, il nous le prouve une fois de plus, et ça fait sacrément du bien.
Ouais. Et je crois qu'il a jamais été aussi paniqué, hein, c'est ce qu'il avait dit juste avant. avant d'entrer, enfin après coup, mais avant d'entrer en scène, c'était vraiment mais au plus haut point.
Comme un abîme.
Et pour cause, exactement.
Le précipice de jouer devant une salle vide.
Ouais, merci beaucoup Diane Chénouda, au plaisir de vous retrouver
avec
évidemment. Marion Sauveur en cuisine avec vous. On termine cette balade. Bonsoir et bienvenue Marion.
Bonsoir.
On peut pas passer les frontières, alors vous nous faites voyager. Vous allez cuisiner 3 recettes d'autres pays. On commence par l'Asie.
Et oui, je vais réaliser des gyozas et raviolis japonais. Alors, je commence par réaliser la pâte à ravioles. Alors, je mélange la farine avec de l'eau bouillante. Je mélange là avec une fourchette pour pas me brûler. Et je forme une grosse boule de pâte et je la laisse reposer 1 heure à température ambiante. Je passe ensuite à la farce. Alors, je mélange du poulet coupé en dés avec du chou chinois émincé, du gingembre en petits morceaux et de l'ail. J'ajoute de la sauce soja, de l'huile de sésame, quelques graines de sésame, du sel, du poivre. Et je mélange bien. Et maintenant, je découpe ma pâte en petites boules. Je mets un peu de fécule de pomme de terre sur le plan de travail. Et ça, c'est une astuce pour que la pâte ne colle pas, Nathalie. Ouais. J'étale chaque petite boule de pâte avec un rouleau à pâtisserie. Et je mets une cuillère de farce au centre de mes disques de pâte. J'humidifie le bord pour que ça colle bien. Et donc, je plie la pâte en deux comme pour former un chausson, tout simplement. Reste maintenant à griller mes gyoza d'un côté. Alors, dans une poêle avec un peu d'huile, allez, 2-3 minutes, j'ajoute un verre d'eau, le couvercle et je laisse terminer de cuire. Mes gyoza sont cuits lorsque la pâte commence à être translucide et que l'eau s'est évaporée. Reste plus qu'à servir avec des baguettes, de la sauce soja et quelques graines de sésame. J'aime bien, ça apporte un peu de croquant ces petites graines.
Moi aussi j'aime bien, mais sur une échelle de 1 à 10, la difficulté ?
Non, c'est facile, c'est facile.
Ah, bon, ok.
Vraiment.
On se dirige maintenant, ça c'était pour l'entrée, on se dirige où maintenant pour le plat ?
Allez, en Italie, je vous propose de faire des gnocchi, ces petits pâtons de pommes de terre. Alors, je cuis mes pommes de terre avant de les éplucher encore chaudes dans un torchon pour pas me brûler encore une fois. Et je les réduis en purée. Alors, je vais utiliser mon robot, parce qu'il faut une purée très fine pour réaliser les gnocchi. J'ajoute la farine, je mélange avec une fourchette et maintenant l'œuf, du sel, du poivre. Je mélange avant de fariner mon plan de travail et je forme un boudin pour découper mes gnocchi. Je les saupoudre de farine et je les laisse reposer 15 minutes dans la farine avant de les cuire dans l'eau bouillante salée. Et vous allez voir, ils vont remonter très vite à la surface, à peine 2-3 minutes. Et pour finir, je les fais revenir dans une poêle où j'ai fait fondre un peu de beurre. J'ajoute un peu d'eau de cuisson et de la sauge et on passe à table, Nathalie. Ah ouais. Vous allez voir, c'est un délice avec ce
petit goût. C'est vrai, quand vous racontez comme ça, ça a l'air si simple. Allez, faites-nous rêver pour le dessert.
En Argentine, avec le dulce de leche, une version latino de notre confiture de lait. Alors, je commence par faire chauffer le lait entier avec le sucre et de la vanille, c'est très important, dans une grande casserole à feu moyen. Et surtout, je ne quitte pas ma casserole des yeux. Je remue. S'il les monte, je baisse la chaleur du feu. C'est long, ça va prendre peut-être presque 1 heure. C'est à ce moment-là qu'il faut ajouter, quand ça prend une couleur caramel au lait, le bicarbonate de soude. Et ça va permettre d'obtenir une couleur bien caramélisée. Et vous l'entendez, mon mélange s'épaissit. Et je mélange encore un petit peu. Et là, on arrête la cuisson. Et je n'ai plus qu'à tartiner ce dulce de leche sur du pain.
Ah oui.
Et demain, aller le reste sur des gaufres, pourquoi pas.
Ça sent jusqu'ici, Marion Sauveur. Oh là là, c'est presque injuste. Bon, merci à vous, on adore l'idée. On vous retrouve demain auprès de Laurent Mariotte à la table des bons vivants à partir de 11h sur Europe 1. Et puis toutes ces recettes sur le site d'Europe 1. Je la veux ici
bien
en studio à votre retour, celle-ci.
Avec grand plaisir.
Merci Marion, très bon week-end à vous. On va se quitter là, dans une seconde. Anissa, le temps du week-end, vous m'aviez promis.
Le temps de la semaine. Le temps de la semaine. Allez, rapidement. Lundi, grand soleil pour tout le monde. Mardi, c'est encore plus beau. Mercredi, c'est lunettes de soleil. Jeudi, c'est crème à bronzer. Bon. C'est une semaine magnifique qui arrive.
Je signe. Merci beaucoup, Anissa. Émilie Mazoyer, elle signe aussi, c'est sûr. Après 20h, c'est musique. Avec vous, Émilie, avec la chanteuse belge, c'est la Sou pour parler de son nouvel album. Et écoutez. Et aussi Cocoon, le duo français. Le concert, c'est avec eux.
Clermontois.
Ben voilà, Émilie aux commandes. Anissa, on se retrouve lundi. Et
avec
l'info revient dans une seconde. Restons ensemble, passez un très bon week-end. Demain rendez-vous 18h, 20h pour écouter Le Monde Changé. C'est Wendy Bouchard, Bernard Poirette. Lui c'est le matin, nous c'est lundi, ici même. À très vite, très bon week-end.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.